Bonsoir. Courbons la tête un instant maintenant pour prier. Notre bienveillant Père Céleste, nous nous approchons maintenant de toi, ce soir encore, au nom du Seigneur Jésus, pour te rendre grâce de ce nouveau jour. Et nous demandons maintenant tes bénédictions sur la réunion de ce soir. Que le Saint-Esprit vienne et qu'il nous donne l'interprétation de ces choses que nous recherchons avec tant d'ardeur. Ô Dieu, puisse-il être tellement précieux pour nous de pouvoir communier tous ensemble autour de la parole, si bien que nous puissions dire, en repartant, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, alors qu'il nous parlait en chemin ?» Nous te remercions de ce qu'il a été pour nous, et nous avons confiance qu'il restera avec nous, alors que nous continuons notre voyage, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Je suis si heureux d'être de retour dans la maison du Seigneur ce soir pour cette autre réunion. Et nous sommes contents. Je suis si heureux que je pensais que celui-ci ne viendrait jamais, mais finalement il est venu. Et donc, je suis vraiment reconnaissant comme c'est le dernier des quatre cavaliers. Et je pense que c'est un message de première importance pour l'Église en ce moment. Je ne sais pas ce qu'il en est de celui qui vient après. Je prends simplement ça au jour le jour, à mesure qu'il le révèle. J'essaie de le donner par à mesure que lui me le donne. Est-ce que vous appréciez la bénédiction? Avez-vous remarqué comme cela va de pair avec les âges de l'Église, comme cela concorde exactement avec eux de façon parfaite? C'est comme ça que, pour moi, ça montre que ce même Saint-Esprit qui a donné les âges de l'Église, c'est le même Saint-Esprit qui donne maintenant ceci. Vous voyez, parce que ça va ensemble. Tout ça, c'est un seul grand mouvement de Dieu qui se montre de différentes manières. Si vous remarquez, quand il se montrait à Daniel dans les visions, ici, c'était quelque chose comme un bouc ou peut-être un arbre qui était représenté. Et plus loin, c'était une statue. Et ces choses qu'il faisait, ça montrait tout le temps la même chose. Mais c'était simplement pour s'assurer qu'on ne manque pas de le voir. Maintenant, j'ai été vraiment très touché il y a quelques instants. Je parlais à une petite dame qui est assise ici. Elle doit avoir 85 ans. Et elle, pas longtemps, juste avant que je parte pour aller dans l'Ouest, eh bien, il y avait une petite fille de l'Ohio qui était, je pense, qui était mourante en phase terminale de la leucémie. Or, la leucémie, c'est le cancer du sang. Et, oh, la pauvre petite était, vous savez, elle était dans un état si lamentable qu'il n'y avait plus aucun espoir pour elle. Il la nourrissait au goutte à goutte par ce procédé. Et donc, c'était une famille très pauvre. Et Madame Kidd, ici, et Frère Kidd, ils leur ont parlé du Seigneur, de combien il exauce les prières. Et ils se sont mis ensemble, je pense, ils ont engagé quelqu'un, et ils ont amené la petite fille ici. Et c'était une très jolie petite fille. Elle devait avoir 6 ou 7 ans, 9 ans. Et elle était là derrière, dans le bureau. Et quand nous sommes allés devant le Seigneur, le Saint-Esprit lui a parlé. Et ils avaient dû l'amener jusqu'ici en la nourrissant, vous savez, par ce moyen-là. Et quand elle est repartie, elle réclamait un hamburger. Et alors, de manger par la bouche. Alors, ils lui ont donné son hamburger, et à partir de là, ils ont continué à la nourrir de la manière naturelle. Peu de temps après, quelques jours, ils l'ont ramenée chez le médecin. Et le médecin n'y comprenait rien du tout. Il a dit, on dirait que ce n'est même pas la même petite fille. Il a dit, eh bien, il n'y a même pas la moindre trace de leucémie, nulle part, absolument nulle part. Alors, elle avait été mourante, il l'avait condamnée, il se contentait de la nourrir au goutte à goutte. Elle était devenue toute jaune, vous savez comment ils deviennent. Et donc, et maintenant, elle va à l'école, elle joue avec les autres enfants, elle ne pourrait pas être plus heureuse. Ça me rappelle un autre cas semblable. Un jour, je venais de rentrer, et il y avait, si je ne me trompe pas, c'était soit des épiscopaux, ou des presbytériens qui avaient amené une petite fille du Kansas. Et les médecins l'avaient condamnée. Elle avait la leucémie. Ils ne lui donnaient plus que 4 jours, je crois, à vivre, tellement elle allait mal. Alors, ils se sont dit qu'ils allaient tout simplement prendre ces 4 jours pour venir jusqu'ici. Ils ont fait le voyage à travers les rafales de neige et tout pour qu'on prie pour elle. Et le grand-père, un homme de très belle apparence, d'un âge avancé, les cheveux gris. Et il y avait déjà 2 jours qu'il l'avait amené ici, dans un petit motel. Je pense qu'il n'existe plus maintenant. Il se trouvait de ce côté-ci de Silver Creek. Et donc, cette nuit-là, je suis allé prier pour elle. C'était tôt le matin. J'étais arrivé en ville cette nuit-là et j'y suis allé. Le vieux père, le grand-père, faisait les 100 pas dans la chambre. Et la mère essayait de soigner l'enfant. Pendant que j'étais à genoux pour prier, le Saint-Esprit m'a révélé un secret qu'il y avait entre la mère et le père, quelque chose qu'ils avaient fait. Je les ai pris à part et j'aurais demandé ce qu'il en était. Ils se sont mis à pleurer. Ils ont dit, c'est vrai. Ensuite, j'ai regardé et j'ai vu la petite fille qui sautait à la corde, qui était allée jouer. Et maintenant, la petite, au bout d'à peu près 3 semaines, ils m'ont envoyé une photo de la petite fille. Elle était de retour à l'école, en train de sauter à la corde, et elle n'avait plus de leucémie du tout. Maintenant, ces témoignages, ils sont absolument authentiques. Ils sont vrais, vous voyez. Alors, notre Dieu est tellement réel, vous voyez. Nous le servons simplement, et nous croyons en lui. Et je sais qu'il est réel. Maintenant, j'essaye du mieux que je peux, et pendant que quelque chose à l'intérieur, au milieu de nous, est en train de se frayer un passage. Et maintenant, ce soir, nous allons essayer, par la grâce de Dieu, de prendre ce 4e saut et de voir ce que le Saint-Esprit va avoir à nous dire par lui. Maintenant, je vais lire dans Apocalypse, chapitre 6, en commençant au verset 7. Les versets 7 et 8, il y a toujours 2 versets. Le premier, c'est l'annonce, et le 2e verset, c'est ce qu'il a vu. Quand il ouvrit le 4e seau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, « Viens et vois ». Je regardais, et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait, se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, et par les bêtes sauvages de la terre. Maintenant, que le Seigneur nous aide, là, à comprendre ceci. C'est un mystère. Bon, pour avoir un peu une vue d'ensemble, pour reprendre, comme on l'a fait pour les uns de l'Église, ces cavaliers et ces sceaux qui ont été brisés. Maintenant, pour se remettre ça en mémoire, nous allons dire quelques mots jusqu'à ce que nous sentions que c'est le bon moment pour parler. Maintenant, nous avons remarqué là que ces sceaux qui sont brisés, c'est le livre de la rédemption scellé, et le livre est enroulé comme un rouleau, comme il faisait autrefois. Ce n'était pas un genre de livre comme ceci. En effet, ça a été inventé dernièrement, cette sorte de livre-là. Ça doit faire, j'imagine, 150 ans ou quelque chose comme ça, 200 ans. Donc, il l'enroulait, puis il laissait dépasser le bout. Et je vous ai dit comment il faisait, et les passages des Écritures, où trouver ça, et dans Jérémie, et tout. Puis, le suivant était enroulé autour, avec le bout qui en dépassait, comme cela. Et chacun d'eux était un sceau. Et c'était un livre scellé de 7 sceaux. Et c'était personne quand il... C'était le livre de la rédemption scellé de 7 sceaux. Excusez-moi. Et alors... Personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'était digne de l'ouvrir, ni même de le regarder. Et Jean a pleuré, parce qu'il ne pouvait trouver aucun homme. En effet, si personne ne prenait ce livre de la main du propriétaire originel, alors qu'Adam et Ève l'avaient perdu, il était retourné là, après qu'ils ont eu perdu leur droit à la parole, aux promesses, à leur héritage. Souvenez-vous, il dirige la terre. Il était un Dieu amateur, car il était un fils de Dieu. Et un fils de Dieu, c'est un Dieu amateur. Or, ce n'est pas contraire à l'Écriture, ça. Je sais que ça semble bizarre, mais Jésus a dit, « Si vous appelez ceux à qui la parole de Dieu est venue, et à qui la parole de Dieu vient-elle ? Aux prophètes. Si vous appelez Dieu ceux à qui la parole de Dieu est venue, comment pouvez-vous me condamner lorsque je dis que je suis le Fils de Dieu ?» Voyez, et donc, ils étaient des dieux. Et si vous, en tant qu'homme, vous naissez dans une famille dont vous portez le nom, vous êtes un fils et une partie de votre père. Et alors que le péché est entré, nous avons vu que l'homme a traversé l'abîme. Et le sang des taureaux et des boucs, il couvrait, mais il ne remettait pas. En attendant que le vrai décolorant arrive, celui qui pouvait prendre la tache du péché, la désintégrer complètement et renvoyer ça au pervertisseur originel, c'est-à-dire à Satan. Une fois que c'est retourné à Satan, celui-ci attend le moment de son anéantissement éternel. Voilà qui montre ce que nous croyons. Nous croyons qu'il sera absolument et complètement supprimé et anéanti. Je crois que le péché sera désintégré. Et une fois confessé sur la base du sang de Jésus-Christ, c'est comme quand on laisse tomber une goutte d'encre noire dans un bassin d'eau de Javel, de décolorant. Ça la décompose en ses éléments chimiques, c'est tout. Et ça la renvoie directement d'où elle est venue. Voyez, et c'est ce que fait le sang de Jésus-Christ. Alors l'homme se retrouve de nouveau de l'autre côté de l'abîme, comme fils de Dieu. Voyez, et alors il devient même qu'il, la puissance créatrice de Dieu est en lui, et du moins, quand Dieu va ordonner que quelque chose soit fait, ce sera fait. Et nous revenons là, alors quand le Moïse, sous le sang des taureaux, une fois qu'il s'est trouvé face à face avec cette lumière, la colonne de feu dans ce buisson ardent, alors il s'est tenu là-bas selon la commission que Dieu lui avait donnée. Et il était prophète. Et quand la parole du Seigneur venait à lui, il parlait. Et des choses étaient même créées par la parole. Voyez? Or, s'il a pu en être ainsi sous cela, le sang des taureaux, qu'en est-il du sang de Jésus? Il ne les a pas couverts, mais remis complètement. Et vous vous tenez dans la présence de Dieu comme fils racheté. Maintenant, vous voyez, l'Église est bien loin de vivre au niveau de ses privilèges. Et je pense que, trop souvent, nous tâtonnons, au lieu de vraiment nous avancer pour affronter la question. Il y a quelque chose que je veux dire, et je vais le dire quand le moment sera venu. Et maintenant, remarquez, quelque chose ne va pas quelque part dans les églises. Et je pense que ce sont les systèmes dénominationnels qui ont déformé la pensée des gens et tout, au point qu'ils ne savent pas comment il faut faire. C'est vrai. Mais il nous a été promis que ce serait révélé. Et maintenant, il y a sept sceaux qui scellent ce livre. Et ces sept sceaux-là, et puis, une fois ces sept sceaux terminés, nous avons vu, d'Apocalypse 10, qu'il y a eu sept tonnerres mystérieux, que Jean avait reçu la commission d'écrire, mais ceux-là, il lui a été défendu de les écrire. Et au temps de ces tonnerres, nous voyons que Christ, ou l'ange, est descendu avec un arc-en-ciel, et qu'il a posé ses pieds sur la terre et sur la mer, et qu'il a juré que le temps était écoulé à ce moment-là. Et puis, nous avons vu que quand les sceaux ont été révélés, que l'agneau avait cessé son œuvre de médiation en tant qu'intercesseur et qu'il s'était maintenant avancé pour faire valoir ses droits sur tout ce qu'il avait racheté par sa mort. Et alors, personne ne pouvait ouvrir le livre, personne ne le comprenait. C'était un livre de rédemption. Et Dieu, le Père, l'Esprit, le tenait dans sa main parce que Christ était au trône, en tant que médiateur, le seul médiateur. Par conséquent, il ne pouvait pas y avoir de saint, pas de Marie, pas de Joseph, ni rien d'autre sur cet autel, parce qu'il fallait le sang. Et seul le sang de Jésus pouvait faire l'expiation. Donc rien d'autre ne pouvait agir comme médiateur. C'est vrai, rien d'autre ne le pouvait. Alors, cette idée d'intercéder auprès de Jude pour la politique et d'intercéder auprès de Sainte Cécile pour telle autre chose, tout ça, ça n'a aucun sens. Ce n'est pas, je ne dis pas que ces gens-là ne sont pas honnêtes et sincères. Je ne dis pas que vous n'êtes pas sincères en faisant ça, si vous le faites. Seulement, vous êtes dans l'erreur. Vous êtes, vous êtes sincèrement dans l'erreur. Et tout ce qui, ils disent, mais cet ange, là, est apparu à Saint Bonifère, et il a dit ceci, cela, et autre chose. Et il devrait dire ceci. Il n'y a aucun doute dans mon esprit sur le fait que quelqu'un ait eu cette vision-là. Je ne doute pas que Joseph Smith ait eu cette vision. Seulement, elle ne concordait pas avec le reste de la parole. Par conséquent, quant à moi, elle est fausse. Voyez, ça doit s'accorder avec le reste de la parole. C'est pareil pour les âges de l'Église, pour les sceaux et pour tout le reste. Et quelqu'un qui s'imaginerait connaître ces sept tonnerres, si ça ne concorde pas avec le reste de la parole, il y a quelque chose de faux, voyez. Il faut que cela vienne par l'ainsi dit le Seigneur, parce que le livre, c'est ceci. Ceci est la révélation de Jésus-Christ en entier. Donc, je crois que c'est alors que l'agneau s'est avancé. Il ne savait pas. J'en pleurais. Il ne pouvait trouver personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, parce que tous étaient de l'autre côté de l'abîme. Vous voyez, le péché. Il n'y avait aucun homme. Et un ange, bien entendu, aurait été digne. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il fallait que ce soit un parent. Il fallait que ce soit un être humain. Et ça, il n'y en avait aucun, parce que tous les hommes étaient nés par le sexe. Il lui en fallait un qui soit né sans le sexe. Alors, Dieu lui-même s'en est chargé par la naissance virginale, et il est devenu Emmanuel. Son sang à lui était celui qui était digne. Ensuite, après avoir franchi l'abîme lui-même, payé le prix et jeté le pont qui permet à chacun de nous de traverser, alors il s'est assis pour être médiateur. Et il est assis là depuis. Et le livre, pendant tout ce temps-là, en fait, il était fermé. Il est là, mais il est encore sous forme de symbole. Il le voyait. Jean même, il l'a vu. L'annonce, quand le premier est sorti, il a dit, « Un cheval blanc est sorti, un cavalier le montait, avec un arc à la main. » Ça, c'est un symbole. Ce n'est pas révélé. Non, c'est juste un symbole. Et comme n'importe quel homme de cette terre, il ne pouvait pas en dire plus long. C'est vrai, il pourrait peut-être patauger et tâtonner, sans doute toucher un point ici ou là, et au bout d'un moment. Mais nous voyons là, dans le livre de l'Apocalypse, qu'au message du septième ange, les mystères, tous les mystères qu'il contenait, devraient avoir été révélés à ce moment-là. Maintenant, ça, c'est Apocalypse 10, 1 à 7, que ce serait révélé au temps marqué, au temps où il le ferait. C'est là que les sept tonnerres ont fait entendre leurs voix étranges, et que Jean allait écrire. Mais Jean savait ce que c'était, mais il ne l'a pas écrit, parce qu'il lui avait été défendu de l'écrire. C'est absolument et complètement un mystère. Ce n'est même pas un symbole ni rien. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a tonné. C'est tout. Et maintenant, en étudiant ceci, maintenant, n'oubliez pas, là, dimanche ou dimanche matin, nous n'aurons pas de service de guérison pour pouvoir répondre aux questions des gens. Maintenant, j'aimerais que vous posiez votre question sur les sept sceaux. S'il y a quelque chose qui vous tracasse, que vous ne comprenez pas, que ce soit sur les sept sceaux. Et puis, samedi soir, je pourrai voir s'il y en a assez pour que j'y réponde ou pas, vous voyez. Et donc, pour le moment, quant à dire, eh bien, parler d'autre chose, ou est-ce que je devrais faire ceci, ou d'un songe que vous auriez eu, ça, ce sont toutes des choses qui méritent qu'on s'y arrête, là, souvenez-vous, ce sont des choses qui méritent qu'on s'y arrête. Mais concentrons-nous donc sur les sept sceaux. C'est ça notre sujet. Concentrons, c'est à ça que ces réunions sont consacrées, aux sept sceaux. Concentrons-nous là-dessus. Il faut que je rentre à la maison. J'ai quelques réunions à faire dans l'Ouest. Ensuite, je vais revenir, dans un peu plus d'un mois ou deux, ou quelque chose comme ça. Et peut-être que le Seigneur permettra qu'on puisse faire quelque chose d'autre là. Peut-être un service de guérison, ou quelque chose, à ce moment-là, ou ce que... quoi que ce soit. Et puis, on a sept trompettes ici, encore à venir, vous voyez. Et elles s'insèrent toutes là, elles aussi. Et les sept coupes, vous voyez, qui doivent être versées. Alors, et tout ça, ça va s'incorporer ici. Mais pour le moment, c'est encore mystérieux. Maintenant, hier soir, nous avons vu que le premier sceau est sorti. Et le cavalier... Et le Seigneur est, je vous le certifie, je ne le savais pas avant. Je ne savais rien d'aucune de ces choses-là avant. C'est vrai, je n'en sais vraiment rien. Je vais simplement là. Je prends la Bible et je m'assois. Et je reste là jusqu'à ce que cela commence à s'ouvrir. Comme ça. Alors je prends mon stylo et je me mets à écrire. Et je reste simplement là, pendant peut-être des heures. jusqu'à ce que ce soit terminé. Ensuite, je retourne vérifier pour voir où il a dit cela. Je me dis, il me semble que j'ai déjà vu ça quelque part. Je prends ma concordance et je vérifie. Est-ce qu'il y a quelque chose comme cela? Et le voilà, c'est ici. Et puis, le revoilà ici. Et le revoilà par ici. Et encore par là. Et par là. Alors, je relis simplement tout ça. Je sais que c'est Dieu, tant que tous les passages de l'Écriture concordent. Il faut que ce soit comme ça. C'est comme quand on construit une maison. Les pierres doivent s'ajuster, pierre sur pierre. Maintenant, hier soir, nous avons eu l'ouverture du troisième sceau. D'abord, il y a eu un cheval blanc. Ensuite, il y a eu un cheval roux. Et après ça, un cheval noir. Et nous avons vu que ces cavaliers, c'était le même cavalier tout le temps. Et c'était l'Antichrist dès le départ. Il n'avait pas de couronne, mais il en a reçu une plus tard. Et puis, nous avons vu qu'il a ensuite reçu une épée pour enlever la paix de la terre. Et nous avons constaté que c'est ce qu'il a fait. Puis, il est arrivé avec ses dogmes de donner l'Église qui avait l'argent en pesant tant pour un denier et tant pour deux deniers. Seulement, il lui était interdit de toucher à l'huile et au vin, dont il ne restait qu'un peu. Et puis, nous avons terminé hier soir en illustrant ce qu'était l'huile et le vin et les effets qu'ils produisent. Et nous, vous avez peut-être trouvé que ça manquait un peu de finesse, mais c'est l'exacte vérité, vous voyez? Donc, nous avons terminé en... Revoyons donc ça pendant quelques instants, là. Et donc, nous avons terminé en parlant du pouvoir du vin et de l'huile qui représentait l'esprit. Maintenant, je pense que vous avez tous noté ça. Sinon, vous le retrouverez sur la bande. Et les références bibliques là-dessus, l'huile qui est toujours le symbole du Saint-Esprit, comme les vierges folles qui n'avaient pas d'huile, les vierges sages qui avaient de l'huile, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Et on est retourné dans les prophètes et tout. Et maintenant, je n'essaie pas de donner toutes les références bibliques. Et il y a certaines choses dont on ne peut même pas parler, ça prendrait trop de temps. Mais j'essaie de situer tout cela avec des références bibliques et tout, d'en donner juste assez pour que les gens puissent savoir et se représenter cela. Mais si on décidait d'examiner à fond un de ces sceaux, eh bien, oh là là, on pourrait prêcher tous les soirs pendant un mois sur ce même sceau, et on n'en aurait même pas effleuré la surface, vous voyez, sur un seul d'entre eux. Voilà à quel point c'est vaste. Mais on se limite aux grandes lignes, et comme ça, vous pouvez voir de quoi il s'agit. Donc, comme l'huile, c'était le symbole du Saint-Esprit. Ensuite, nous avons vu que l'huile et le vin vont ensemble dans l'adoration. Vous voyez, ils vont toujours ensemble dans l'adoration. Et j'ai dit que le vin, c'est ce qui m'est venu. Que le vin, de quoi il est le symbole, c'est de la puissance de la stimulation par la révélation. Voyez, ça, c'est quand quelque chose a été révélé. Ça produit une stimulation sur le croyant, parce que c'est donné par révélation. Voyez, c'est quelque chose que Dieu a dit. C'est un mystère. Ils ne peuvent pas le comprendre, voyez-vous. Et au bout d'un certain temps, Dieu descend et il le révèle. Et puis, il le confirme. Souvenez-vous que quand la vérité est révélée, la vérité est aussi confirmée. Dieu, constamment, peu importe combien quelqu'un peut être intelligent, combien il peut être d'une intelligence supérieure, si Dieu n'appuie pas ce qu'il dit, il y a quelque chose de faux. Voyez? Exact. Parce que c'est la parole. Maintenant, quand Moïse est allé là-bas, sous l'inspiration de Dieu, il a dit, « Qu'il y ait des mouches, les mouches sont venues. » Il a dit, « Qu'il y ait des grenouilles, les grenouilles sont venues. » Voyez-vous? Et s'il avait dit, « Qu'il y ait des mouches, et qu'elles ne soient pas venues. » Voyez-vous? Dans ce cas-là, il n'aurait pas prononcé la parole du Seigneur. Vous voyez? Il aurait prononcé sa propre parole. Il aurait peut-être pensé qu'il devrait y avoir des mouches, mais il ne serait venu aucune mouche. Parce que Dieu ne lui avait pas dit. Et quand Dieu vous dit quelque chose, qu'il dit, va faire ceci, et je vais l'appuyer, car c'est ma parole, et qu'il le montre dans la Bible, alors Dieu est là pour l'appuyer. Et si ce n'est pas écrit dans la Bible, Dieu l'appuiera quand même, si c'est la parole de Dieu. Voyez? Et à ce moment-là, si c'est quelque chose d'autre, c'est révélé aux prophètes. Nous comprenons bien que tous les mystères de Dieu sont divulgués aux prophètes et à eux seuls. Vous voyez, Amos 3, 7. Bon, donc la puissance de la révélation produit une stimulation sur le croyant. Car le vin naturel, a le pouvoir de stimuler. Voyez, il sert à produire de la stimulation sur quelqu'un qui est tout abattu. Voyez. Eh bien, donc là, la révélation de la parole, elle a une puissance. Elle donne aux croyants la stimulation de la joie, la stimulation de la satisfaction, la stimulation de voir que c'est confirmé, que c'est démontré. Ça s'appelle, dans l'Écriture, c'est comme ça que nous appelons ça du vin nouveau. Nous appelons toujours ça comme ça, comme ils sont pleins de vin nouveau. Voyez, bien, ou de vin spirituel, je pense que ce serait la meilleure interprétation. Ce serait de vin spirituel, comme le pouvoir du vin naturel se révèle dans la stimulation, il en va de même du vin nouveau, alors qu'il révèle la parole de Dieu qui est esprit. Oh, maintenant, voilà, c'est, vous voyez, la parole elle-même est esprit. Vous croyez ça? Lisons-le, Jean 6. On va juste, oui, alors vous ne direz pas, eh bien, bon, quelqu'un a dit ça. Allons voir qui l'a dit, et alors on saura si c'est la vérité ou pas. Jean, chapitre 6, le chapitre 6, et je crois que c'est 60, verset 63, très bien. Je pense que c'est ça, oui. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La parole elle-même est esprit. C'est l'esprit sous forme de parole. Et alors, vous voyez, quand elle est vivifiée ou animée, l'esprit de la parole se met à œuvrer et il agit. Voyez, c'est que, maintenant, regardez bien, il faut qu'une pensée soit une pensée avant de pouvoir être une parole. Ensuite, une fois qu'une pensée est formulée, c'est une parole. Maintenant, ceci, c'est la pensée de Dieu qu'il a placée dans la parole. Et ensuite, quand nous la recevons de lui, elle devient une parole. Dieu a révélé à Moïse ce qu'il devait faire. Moïse l'a prononcé et c'est arrivé. Voyez, c'est ça, quand ça vient vraiment de Dieu. Maintenant, nous voyons que cela stimule et cela donne de la joie parce que c'est la parole de Dieu. Et le vin nouveau stimule quand il révèle la parole. Et parfois, la joie qu'il donne est sans mesure. Nous en avons parlé de ce qu'il donne tellement de joie qu'on en est submergé. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de fanatisme et des gens qui s'excitent. Je sais que parfois, ils font ça quand la musique est très rythmée et tout. Et je sais que ces choses-là se font. Et je crois à ça, moi aussi. Mais, par les temps qui courent, j'ai vu des gens qui, tant que la musique joue, tout le monde saute et pousse des cris. Mais quand la musique s'arrête, ils s'arrêtent. Voyez, je crois, eh bien, ça, c'est encore en ordre, quant à moi, vous voyez, tant que les gens vivent comme il faut. Mais bon, là, quand on se met à porter la parole, or voilà ce qui donne réellement la vie, c'est la parole, et c'est elle qui donne la joie de la stimulation du vin nouveau. Voyez, oui, et c'est ce qui est arrivé à la Pentecôte, quand la parole a été confirmée. Maintenant, regardez, maintenant, Jésus leur a dit, Luc 24, 49, « Voici, je vous envoie la promesse de mon Père, mais montez à Jérusalem et attendez jusqu'à ce que... » La promesse du Père, c'était quoi? Dans Joël 2, 28, eh bien, on voit qu'il va répandre l'Esprit. Dans Ésaïe 28, 19, qu'il y aurait des lèvres balbutiantes et d'autres langues, et toutes ces choses. Ils sont montés, et comme nous l'avons vu, Peut-être que l'un d'eux a dit, « Eh bien, je crois que ça fait assez longtemps qu'on attend. Acceptons-le donc par la foi. » C'était une bonne doctrine baptiste, mais ça n'a pas marché avec ces frères-là. Donc, à un moment donné, il fallait que ça devienne une réalité. Et pour leur ministère, ils ont attendu que la parole soit confirmée. Et quand vous venez chercher le Saint-Esprit, faites la même chose. Oui, vous pouvez l'accepter par la foi. Vous devez accepter Christ par la foi. C'est tout à fait juste. Et vous acceptez le Saint-Esprit par la foi. Mais après, laissez le Saint-Esprit venir appliquer la circoncision en témoignage de ce qu'il a accepté votre foi. Vous voyez? Alors, vous voyez, Abraham a cru Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Mais Dieu lui a donné le signe de la circoncision comme confirmation de ce qu'il avait accepté sa foi. Donc, nous devons faire la même chose. Nous devons nous attendre au Saint-Esprit jusqu'à ce qu'il ait fait quelque chose. Pas forcément parce qu'on a parlé en langue, ou parce qu'on a dansé, ou qu'on a été saisi d'émotion, qu'on a crié. Jusqu'à ce qu'on ait été changé. Jusqu'à ce qu'il se soit vraiment passé quelque chose. Peu importe sous quelle forme ça vient, pourvu qu'il se soit passé quelque chose. Voilà l'essentiel, voyez? Et je crois que le parler en langue et toutes ces autres choses, c'est très bien. Mais ça, tout seul, ça ne marchera pas. Et vous le savez que ça ne marchera pas. Donc, ça ne fait pas l'affaire. J'ai vu des sorcières parler en langue. J'ai vu des sorciers parler en langue et danser par l'esprit. Certainement, ils posaient par terre un crayon qui se mettait à écrire dans des langues inconnues. Quelqu'un interprétait ça, c'est vrai, et il disait la vérité. C'est vrai, ce qui était écrit, c'était précisément ce qui s'était passé. Ça correspondait très précisément. Je les ai vus se lancer de la poussière sur la tête, se taillader avec des couteaux et couvrir ça avec du sang de gnou ou quelque chose. Et certainement, voyez-vous, et invoquer le diable. Alors, vous voyez, ça ne... Parler en langue, ça ne suffit pas. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien, voyez-vous, bien que je puisse le faire, voyez. Donc, ces choses-là, ça ne veut pas dire que vous avez le Saint-Esprit. Mais quand lui, la personne, l'Esprit immortel de Christ, devient votre sauveur personnel, et qu'il vous change, et que tout ce que vous voyez, c'est le calvaire et cette parole, alors il s'est passé quelque chose. Oui, monsieur, il s'est passé quelque chose. Personne n'aura besoin de vous le dire. Quand ça arrivera, vous le saurez. Et le vin nouveau, quand il apporte la révélation, alors c'est révélé. Et c'est comme ça que ça s'est passé à la Pentecôte. Ils savaient qu'un esprit devait être répandu sur eux. Et ils ont attendu jusqu'à ce que ça arrive. Et quand la confirmation de la révélation est venue, alors ils ont été stimulés. Certainement, ce qu'ils bouillonnaient alors. Ils se sont précipités dans la rue, alors qu'avant, ils avaient peur et ils s'étaient barricadés. Ils étaient là, dans la rue, à prêcher l'évangile à ce même groupe de gens dont ils avaient eu peur. C'est vrai, voyez, il s'était passé quelque chose, parce que la véritable parole promise était confirmée. Bon, arrêtons-nous ici un instant. Si ça a fait tellement d'effet à ces hommes qu'ils ont presque tous scellé leur témoignage de leur sang. Peu importe ce qui a pu arriver, tant qu'ils ont vécu, ils n'en sont jamais revenus. Cela ne les a pas quittés, parce que c'était la véritable parole promise, confirmée. La révélation avait été confirmée. Et ils sont morts en scellant leur témoignage de leur propre sang. Maintenant, regardez la promesse pour les derniers jours. Et nous la voyons ici, confirmée sous nos yeux, là, la venue du Saint-Esprit en ce moment et les œuvres qu'il devait faire. Et nous voyons cela ici, au milieu de nous. Voyez? Oh, nous devrions, oh là là, comment pouvons-nous entendre? Il se passe quelque chose, je vous le dis, mon ami. Ce vrai, ce véritable et sincère croyant prédestiné, quand la lumière touche cette semence, une nouvelle vie jaillit de là. Cette petite femme, au puits, alors que ces sacrificateurs très instruits, ils avaient dit, « Eh bien, ça, c'est du diable. C'est un diseur de bonne aventure. » Il leur dit simplement la bonne aventure à ces gens. Et il est un démon. Mais quand cette petite femme, avec cette semence prédestinée en elle, bon, vous pensez que c'est faux, mais Jésus a dit, personne ne peut venir si mon Père ne l'attire. Et tous ceux que le Père m'a donnés viendront. Et il, et dans les derniers jours, l'Antichrist va pouvoir, cet esprit Antichrist que nous sommes en train d'étudier dans le système dénominationnel, et nous avons prouvé que le système dénominationnel est Antichrist. Maintenant, à partir de là, l'homme qui peut repartir d'ici comme ça, quelque chose ne va pas, s'il croit encore que le système dénominationnel n'est pas Antichrist. Alors qu'il est parfaitement démontré par l'histoire et tout, d'un bout à l'autre de la Bible de Dieu et tout le reste, que c'est Antichrist. Et c'est Rome qui est à la tête. Et ses filles, les églises, elles suivent tout bonnement. Et toutes les deux seront jetées en enfer. C'est vrai. Alors nous voyons cette chose, cet Antichrist, l'esprit de cela. Et ce jour où nous vivons, et, oh, ça devrait nous remplir d'une joie ineffable et glorieuse. Cette brave petite femme, quand elle a été touchée, oh là là, tout de suite, la semence a percé. Maintenant, souvenez-vous, la Bible dit qu'au dernier jour, cet Antichrist séduirait le monde entier. Il n'y en aurait qu'un petit nombre dont les noms auront été écrits dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Et quand la véritable confirmation de la vérité révélée de la parole de Dieu touchera le cœur d'un de ceux-là, il se précipitera vers l'eau et ira là-bas avec le Saint-Esprit à toute vitesse. Et vous ne pourriez pas l'en empêcher, parce que la nouvelle vie a fait son chemin. Il n'y a pas longtemps, je parlais à quelqu'un qui essayait d'argumenter avec moi en disant « Vous n'avez pas honte de dire que Dieu a créé les cieux et la terre en 3 jours ou en 6 jours ?» J'ai dit « C'est ce que la Bible dit. » Il a dit « Eh bien, on a des preuves qui démontrent que le monde existe depuis des millions d'années. » J'ai dit « Ça n'a rien à voir. » Dans Genèse 1:1, il est dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Point. C'est tout, voyez-vous. Or, la terre était informe et vide, et j'ai dit, je crois que toutes les semences étaient déjà là, vestiges d'une autre civilisation, ou quelque chose. Et dès que l'eau s'est retirée, et que la lumière les a touchées, c'est là que les arbres et tout ont poussé. Et c'est pareil pour l'être humain, c'est un type. Quand tout le brouillard s'est dissipé, et que la vérité est révélée à cette vraie semence qui est là, qui a encore en elle un germe de vie, et que la lumière de l'Évangile peut la toucher par une vraie confirmation de la parole, elle vivra. Il y a de la vie en elle. Elle croira. Sans ça, elle ne peut pas vivre. Il n'y a pas de vie en elle. Ces noms qui ont été écrits dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde, ils viendront. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. C'est pour ça que Jésus reste assis là. Il continue son œuvre de médiation en attendant la dernière semence. Et il saura exactement quand elle sera touchée. Le docteur Livet, il doit être encore ici quelque part, à la réunion. Ça fait quelques jours que je ne l'ai pas vu. Je ne pense pas l'avoir vu. Il est ici. Eh bien, l'autre jour, il m'a fait parvenir ce bout de papier au sujet de ce qu'Irénée avait dit. Eh bien, j'ai choisi Irénée comme étant incontestablement l'ange de l'âge où il a vécu. Toujours est-il qu'il a dit que quand le dernier membre du corps sera entré dans ce dernier âge, cela devrait être, la chose serait révélée à ce moment-là. Et voilà, c'est tout à fait juste, voyez, nous sommes en ce jour-là. Bien, donc ceux de la Pentecôte débordaient de joie, ils étaient vraiment stimulés. Je pense que c'est ce que cela fait à tout le monde. Prenons donc juste un instant, pensons à David. Lui aussi, il a été tout stimulé. Il a dit, ma coupe déborde. Je crois qu'il s'était vraiment passé quelque chose de glorieux dans sa vie. Qu'est-ce qui lui a fait faire ça? Quand il était dans l'esprit, étant donné qu'il était prophète, nous le savons qu'il l'était, la Bible dit, le prophète David. Donc, car il était prophète, il était dans l'esprit et a vu la résurrection. Si vous aimeriez le lire, c'est dans Psaume 16, 8 à 11. Il a dit, « Aussi mon corps est dans la joie. Oh là là, je repose en sécurité, parce que tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Et je vous le dis, sa coupe a débordé, parce qu'il a vu, quoi qu'il arrive, oh, il a vu la résurrection. Il était vraiment, et sa coupe a débordé. Et David, il y a une autre fois aussi où sa coupe débordait, dans 2 Samuel, vu que vous avez vos crayons à la main. 2 Samuel 6, 14. Il y avait eu une sécheresse. Ils avaient emporté l'arche. L'ennemi était venu et il avait pris l'arche de l'Éternel. Et il l'avait emporté, il l'avait placé devant Dagon. Et Dagon est tombé la face contre terre. Puis, ils l'ont transporté dans une autre ville. Et celle-ci a été frappée de fléaux. C'était, ils n'avaient jamais rien eu d'aussi cuisant sur les bras, là-bas. Et ils n'arrivaient pas à s'en débarrasser. En effet, elle n'était pas à sa place. Donc, après qu'ils l'ont mise sur le char à bœufs, ils revenaient avec. Et David, quand il a vu l'arche qui revenait, vous savez ce qu'il a fait? Il a été tellement envahi et sa coupe a débordé. La stimulation, en voyant la parole qui se révélait de nouveau, qui revenait en Israël, il a dansé par l'esprit et il tournait comme ça. Oui, sa coupe débordait, vous voyez? Pourquoi? Il a vu revenir la parole. Je pense que n'importe qui serait un peu stimulé de voir qu'après toutes ces années, voilà que la vraie parole, selon la promesse qui avait été faite, était apportée et confirmée. Quel temps glorieux! Quel temps glorieux! Maintenant, lisons. Si je continue à parler comme ça, je n'arriverai pas à mon sujet et je vous aurais retenu ici jusqu'à 22h30. Hier soir, je vous ai laissé sortir de bonne heure. Alors ce soir, il faudra que je vous retienne un bon moment. Oui, oui. Non, c'était seulement pour vous taquiner. Voyez, nous voulons simplement que ça se passe comme le Seigneur conduira. C'est tout. Bon, quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait « Viens, vois ». Bon, quand l'agneau a ouvert le quatrième sceau, arrêtons-nous là pour le moment. Le quatrième sceau, maintenant, qui l'a ouvert? L'agneau. Y avait-il quelqu'un d'autre qui en soit digne? Personne d'autre ne pouvait le faire. Non, c'est l'agneau qui a ouvert le quatrième sceau. Et le quatrième être vivant, l'être semblable à un aigle, a dit à Jean, viens voir ce qu'est le quatrième mystère du plan de la rédemption qui a été caché dans ce livre, parce que l'agneau était en train de l'ouvrir. Autrement dit, voilà ce qu'il disait. Ici, il y a un quatrième mystère. Je te l'ai montré sous forme de symbole. Maintenant, Jean, je ne sais pas si tu l'as compris ou non, mais il a écrit ce qu'il a vu. Seulement, c'était un mystère. Donc, il a écrit ce qu'il a vu. L'agneau était en train de briser les sceaux, et pourtant Dieu n'allait pas encore les révéler. C'était réservé pour les derniers jours. Voyez, or, on a eu des symboles et on a cherché à les sonder, et on s'en est assez bien sorti par moments, vous voyez. Mais nous savons que cela a continué à avancer. Seulement, là, dans les derniers jours, nous pouvons regarder en arrière et voir ce qu'il en était. Et c'est ce qui était prévu pour la fin de l'âge de l'Église, juste avant l'enlèvement. Comment quelqu'un peut dire que l'Église va passer par la tribulation? Je ne sais pas. Mais pourquoi lui faudrait-il passer par la tribulation alors qu'elle n'a pas un seul péché? Je veux dire, c'est-à-dire, par l'Église. L'Église, elle va passer par la tribulation. Mais je parle de l'épouse. L'épouse, non, elle n'a aucun péché contre elle, pas un seul. Elle en a été blanchie et il n'en reste même plus. Il n'en reste même plus l'odeur, plus rien. Ils sont parfaits devant Dieu. Alors, pourquoi passerait-il par quelque tribulation que ce soit pour être purifié? Mais les autres, oui, l'Église, elle passe par la tribulation, mais pas l'épouse. Bon, donc, on l'a vu par toutes sortes de symboles, là, comme là, l'Église, Noé, qui était le type de ceux qui sont transportés. Quand il est sorti, il est tombé dans le péché. Vous voyez, maintenant, ils ont effectivement traversé. Mais Enoch est parti avant, lequel était le type des saints qui partiraient, et ce, avant la période de la tribulation. Maintenant, nous voyons que cet agneau a ouvert le sceau. Or, le premier être vivant que nous avons vu, si vous remarquez, le premier être vivant, c'était un lion, un animal. Nous avons vu ça dans le livre des âges de l'Église. Ensuite, le deuxième être vivant, il avait la face d'un bœuf ou d'un veau, je crois. Et le troisième être vivant avait la face d'un homme. Mais le quatrième être vivant, il avait la face d'un aigle. Or, c'est exactement comme ça qu'on les avait vus, exactement dans cette succession-là. Et c'est même exactement comme ça qu'ils sont placés dans le livre ici. Il y avait un éminent docteur, une fois en Floride, qui apportait un enseignement et qui disait que le livre des actes, c'était seulement un échafaudage pour l'Église, que c'était dans les quatre évangiles qu'on trouvait l'Église. Et nous voyons que c'est l'inverse, que ce sont les quatre évangiles qui protègent le livre des actes. C'est à partir de ces quatre évangiles que le livre des actes a été écrit, les actes du Saint-Esprit dans les apôtres. Et nous avons vu dans le livre que les gardes étaient là, ils veillaient, à l'est, au nord, à l'ouest et au sud. Vous vous souvenez que nous l'avons dessiné ici, comme tout concordait admirablement, d'une façon absolument parfaite. Maintenant, j'aimerais vous faire remarquer, il a dit « Viens et vois ». Jean, là, j'aimerais encore vous faire remarquer ceci avant. Bon, celui-ci est le dernier des cavaliers qui révèle la manière dont l'Antichrist a agi. Demain soir, ce seront les âmes qui sont sous l'autel. Le soir d'après, les jugements. Le soir d'après, le départ de la fin de l'âge, la fin du temps, de toutes choses. Vous voyez, quand elle sera enlevée. Par conséquent, c'est en plein dans ce septième sceau, là, que les coupes sont versées et que tout le reste est déversé. Ce que sont ces choses, je ne sais pas. Remarquez, mais maintenant, ici, ce que nous voyons, c'est que cet homme ici, c'est un aigle. Cet homme qui, ou cet être vivant que nous voyons apparaître maintenant, ou autrement dit, il y a quatre âges distincts dans ça. Il y a eu l'âge du lion, et nous voyons que c'est maintenant le quatrième âge. Et il a dit, « Viens voir le quatrième mystère du livre de la rédemption, qui était caché dans ce livre. Viens voir. » Alors, Jean est allé voir, et il a vu un cheval de couleur pâle. Et encore le même cavalier montait ce cheval de couleur pâle. Maintenant, il se nomme la mort. Maintenant, remarquez, aucun autre cavalier, aucun des autres chevaux, toutes les fois que le cavalier chevauchait, il n'avait pas, l'homme en question n'avait pas de nom. Mais maintenant, il se nomme la mort. Ça n'avait pas été mentionné, voyez? Il se révèle maintenant. Ce qu'il est, c'est la mort. Eh bien, on pourrait vraiment s'étendre là-dessus pendant toute une prédication et le rendre tout à fait clair. Mais tout ce qui est anti, tout ce qui s'oppose au vrai, c'est forcément la mort. En effet, il n'y a que deux sujets, ce sont la vie et la mort. Et c'est la preuve que cette révélation du Saint-Esprit, en ce jour, c'est l'exacte vérité. L'anti, il est la mort. En effet, la parole, comme nous le verrons plus tard, là, elle est la vie, voyez. Et cet homme, il se nomme la mort. Or, ça n'avait pas été dit les autres fois au sujet de ce cavalier. Mais, à partir de maintenant, on dit qu'il se nomme la mort. Mais, dans la révélation du lion, maintenant regardez bien. Là, je veux faire attention en lisant ceci pour être bien sûr. J'ai noté leur place, leur position, là. Pas dans la révélation de l'âge du lion ou du premier âge, de l'âge du début. Ceci n'avait pas été révélé. L'âge suivant, c'était l'âge du bœuf, c'est-à-dire l'âge des ténèbres, le Moyen Âge. Et ce qu'il en était n'avait pas été révélé. Et l'être vivant semblable à un homme, celui de la sagesse, qui représentait les réformateurs, Luther, Wesley, et ainsi de suite. Là non plus, cela n'avait pas été révélé. Mais dans l'âge de l'aigle, le dernier âge, l'âge prophétique, qui doit voir l'avènement de la parole prophétique, vous voyez, à qui les secrets sont toujours donnés. Or, c'est là-dessus que nous allons nous attarder un peu là-dessus ce soir, pour que vous le compreniez parfaitement. Maintenant, la plupart du temps, vous vous rendez bien compte que c'est... Je ne parle pas seulement au groupe qui est ici. Ces bandes vont partout, vous voyez. Aussi, je dois être très clair. Autrement, celui qui aurait seulement une des bandes et qui n'aurait pas les autres, il serait tout désorienté, vous voyez. Dieu a promis ceci, vous voyez, pour ce jour-ci, pour finalement mettre un terme à toutes ces choses qu'on a eues et à toute cette confusion. Nous sommes, on a eu les vêtements d'Eli, on a eu les manteaux d'Eli. Oh, il y a eu des gens qui, John Alexander Dovey, qui s'est fait enterrer là-bas, enveloppé dans un manteau. Il disait qu'il était Élisé. Et on a eu toutes sortes de choses comme ça. Qu'est-ce que c'est, en fin de compte? C'est seulement pour empêcher une vérité qui va vraiment être apportée, voyez? Avant la venue de Jésus, il y a eu des faux Christ, voyez? C'est toujours comme ça. C'est Satan qui présente une contrefaçon pour troubler la pensée et la foi des gens avant que la chose arrive pour vrai. C'est tout. Gamaliel n'a-t-il pas dit la même chose aux Juifs ce jour-là? Il a dit, un homme qui prétendait être celui-là n'a-t-il pas paru? Et ils en ont entraîné 400 dans le désert. Ils ont péri, et tout. Il a dit, tout sarment que mon Père Céleste n'a pas planté, a dit Jésus, sera déraciné. Gamaliel a dit, laissez-les aller. Si la chose ne vient pas de Dieu, ne se détruira-t-elle pas d'elle-même? Mais si elle vient de Dieu, alors vous auriez combattu contre Dieu. Cet homme a eu de la sagesse. C'était un vrai docteur. Maintenant, pour mener à terme tous ces mystères, Dieu a promis qu'il y aurait un véritable Élisée qui paraîtrait, un homme qui serait oint de cet esprit-là et qu'il révélerait. Il l'a promis dans Malachie 4. Et j'ai des notes et des lettres de personnes qui disent que ce n'est pas vrai, mais j'aimerais bien leur parler. Voyez, eh bien, vous ne pouvez pas nier ça. N'importe quel bon théologien sait que c'est la vérité. C'est ce qu'ils attendent. Mais ça va se passer exactement de la même manière que pour Jean, le précurseur de la première fois que Christ est venu. Eh bien, ils ne l'ont pas reconnu à cause des choses si glorieuses qui avaient été prophétisées à son sujet. Eh bien, il devait abaisser tous les lieux élevés, relever tous les lieux bas, aplanir tous les lieux raboteux. Et, oh, les prophètes, Esaïe, 712 ans avant sa naissance, et Malachie, 400 ans avant qu'il entre en scène. Tout cela avait prophétisé à son sujet. Et on s'attendait à ce qu'une passerelle descende du ciel et que ce prophète s'avance, son bâton à la main, venant de Dieu. Et qu'est-ce qui est arrivé? Un homme que vous, qui ne pouvait même pas présenter de carte de membre. Il ne pouvait fournir aucune référence. Il restait dans le désert et il n'avait même pas une instruction primaire. Les historiens nous disent qu'il est parti dans le désert à l'âge de 9 ans, après la mort de son père et de sa mère. Et il avait été suscité. Sa tâche était trop importante pour qu'il aille perdre son temps dans un séminaire. Il devait annoncer le Messie. Dieu ne peut pas utiliser un homme bourré de théologie. Il ne peut pas, parce qu'il va toujours y revenir. C'est ce qui lui a été enseigné. Il est porté à revenir à ça. Alors, s'il commence à voir quelque chose, il va chercher à revenir à ce que les professeurs avaient dit. Il vaudrait mieux vous tenir loin de ces choses-là et croire Dieu, simplement. Aussi, nous voyons qu'ils ne l'ont pas reconnu. Même les apôtres qui étaient là, ils ne l'ont pas reconnu. Eh bien, ils ont dit, « Pourquoi l'Écriture dit-elle, les scribes disent-ils qu'Élie ?» Il a dit, « Mais il est déjà venu et vous ne l'avez pas reconnu. » C'est pour ça que je dis que ce sera pareil pour la résurrection ou l'enlèvement. Il va être passé et eux, je sais que ça peut sembler bizarre, mais peut-être qu'après la soirée, vous en saurez un peu plus long, si le Seigneur le veut, sur la façon dont ça va se passer au juste, vous voyez. Ce sera tellement secret que pratiquement personne n'en saura rien. Le monde va simplement penser, il va simplement continuer comme si de rien n'était, vous voyez, et... C'est toujours comme ça qu'il fait. Vous savez, je doute qu'il n'y a pas le 90e % des gens de la terre qui ont su que Jésus-Christ était là quand il est venu. Vous savez, quand Élie a prophétisé, je me doute que pratiquement personne ne savait qu'il était. Il savait qu'il y avait un excentrique là-bas, une espèce de vieux fanatique, mais il le haïssait, certainement. Il était ce qu'ils appelaient le drôle d'oiseau. Et je pense que n'importe quel chrétien né de nouveau est un peu un drôle d'oiseau pour le monde. C'est que vous avez été changé, vous êtes d'un autre monde. Votre esprit vient de l'autre côté de l'abîme. Et de ce côté-ci, c'est un tel fouillis. Alors, si vous n'êtes pas différent, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes encore trop attaché à la terre. Vos pensées doivent être orientées vers le ciel. Et le ciel vit de la parole. Donc, nous remarquons que cette chose glorieuse a eu lieu. Maintenant, nous croyons que le véritable esprit d'Élisée doit venir. Cela a été prédit, vous voyez. Et souvenons-nous-en, il sera là, en sa saison, en son temps. Il se peut que nous soyons en train d'en poser le fondement maintenant. Et ce ne sera pas une organisation. Je suis en désaccord avec un de mes bons amis à ce sujet-là. Lui, il dit que ça va être un groupe de gens. Je voudrais que vous me montriez ça dans l'Écriture. Dieu, le Dieu qui ne change pas, il ne change jamais ses plans. Sinon, alors il n'est pas Dieu. C'est vrai, parce qu'il est un mortel. Il n'en sait pas plus long que moi et il fait des erreurs. Dieu n'a jamais changé son plan. Depuis cette fois-là, dans le jardin d'Éden, il a élaboré un plan pour la rédemption et c'était le sang. Et on a essayé l'instruction, on a essayé la dictature, on a essayé la psychologie, on a essayé les dénominations, on a tout essayé pour faire que les gens s'unissent, ou que tout le monde s'aime et tout le reste. Il n'y a jamais eu d'autre endroit de communion que sous le sang, le seul terrain sur lequel Dieu rencontre l'homme. Dieu traite toujours avec un seul individu. Deux hommes auront deux façons de penser. Il n'y a jamais eu deux prophètes majeurs sur la terre qui ont prophétisé en même temps. Remontez dans le temps et vérifiez. Non, monsieur, ça ferait trop de confusion. Ce qu'il lui faut, c'est un seul homme qui s'abandonne totalement à lui. Et il utilise cette personne-là. Il cherche cette personne-là. Mais un jour ou l'autre, il y en aura un, quelqu'un qui l'écoutera, mot à mot. Peu importe ce que n'importe qui d'autre peut dire, ils ne s'en détourneront jamais. C'est vrai, ils attendront l'ainsi dit le Seigneur. Et tant qu'ils ne l'auront pas, ils ne bougeront pas. Et il sera correctement confirmé. Vous, maintenant, le monde, au dehors, va détester cela. Mais la semence élue, la semence prédestinée, comme du temps de Jésus, quand la lumière brillera, cette semence prendra vie, comme ça. Ils le sauront, ils le comprendront. Vous n'aurez pas besoin d'en dire un mot. Elle a dit, « Monsieur, je vois que tu es prophète. Je sais que le Messie, quand il viendra, il doit... » Il a dit, « Je le suis. » Oh, ça lui a suffi, ça. Elle n'a pas eu besoin d'attendre toute la nuit et d'attendre toute la nuit d'après. À l'instant même, elle l'a reçu. Elle était en route. Elle en parlait aux gens. Maintenant, souvenez-vous, là, au premier âge, c'était l'âge du lion. C'était le lion de la tribu de Juda, Christ. C'est l'influence de sa vie qui a dominé cet âge-là. Ça, c'est le premier être vivant, c'est-à-dire la puissance qui a riposté par une voix humaine. L'âge suivant, c'était l'âge du bœuf ou l'âge du cavalier au cheval sombre. Voyez, maintenant, la raison pour laquelle le premier âge, c'était un âge en blanc, c'est que, comme j'ai toujours entendu les gens le dire, au sujet du premier cavalier, que le blanc représentait la puissance de l'Église qui était partie pour vaincre. Et nous avons vu qu'il a reçu une couronne, que c'était ça, c'était bien l'Église. Seulement, où est-il allé? Il est allé à Rome, c'est là qu'il est allé. Il a reçu sa couronne. Maintenant, le deuxième âge, c'était le cavalier au cheval roux. C'était un âge sombre. Et maintenant l'âge suivant, c'était l'homme de l'âge du cavalier au cheval noir. Et lui, c'était l'âge des réformateurs. Vous voyez, quand la voix qui a parlé. Or, le cavalier au cheval noir, c'était l'Antichrist. Mais celui qui parlait dans cet âge-là, il était représenté par un homme, c'est-à-dire la sagesse, intelligent, astucieux, voyez. Et ils n'ont pas saisi, voyez-vous. Ils ne l'ont pas appelé, ils ne lui ont pas donné de nom, voyez. Ils ont juste dit qu'il était sorti. Mais maintenant, quand arrive l'âge de l'aigle, c'est lui qui... Dieu compare toujours ses prophètes à des aigles. Il se donne lui-même le nom d'aigle. L'aigle monte tellement haut que rien ne peut rivaliser avec lui. Et il n'est pas seulement là-haut, mais il est conçu pour occuper cette place. Une fois là-haut, il peut voir où il est. Il y a des gens qui montent là-haut, mais ils ne peuvent pas voir où ils sont. Alors, ça ne les avance à rien de monter jusque-là. Mais qu'un corbeau essaye donc de suivre un aigle dans son vol, ou un faucon, l'un ou l'autre, il se désintégrerait. Il faut qu'il soit pressurisé pour l'endroit où il va. Voilà le problème aujourd'hui. Certains d'entre nous ne sont pas pressurisés. On explose trop vite, vous voyez, quand on se met à sauter en l'air. Mais il faut être pressurisé. Quand on est là-haut, on doit avoir l'œil perçant de l'aigle pour voir ce qui vient et pour savoir ce qu'il faut faire. Or, c'est l'âge de l'aigle qui a révélé cela. Maintenant, nous voyons que cet âge de l'aigle Il a été promis dans Apocalypse 10:7 et dans Malachie 1:4 que c'est dans les derniers jours, voyez-vous, c'est exact qu'il serait là. Très bien, remarquez. Maintenant, cet individu, nous voyons qu'il monte un cheval de couleur pâle. Pâle. Oh là là. Après, remarquez, après 68 millions de protestants. Hier soir, nous avons pris ça dans la glorieuse réforme de Schmucker, qui citait le martyrologe de Rome. Nous avons vu que jusque dans les années 1500, je crois, ou 18, je ne me souviens plus exactement maintenant, mais il y en a eu 68 millions qui ont été mis à mort pour avoir protesté contre la première église romaine, Rome. Ce n'est pas étonnant qu'il ait pu personnifier, prendre le nom de, et s'appeler la mort. C'est bel et bien ce qu'il était. Or, Dieu seul sait combien il en a fait mourir spirituellement, par son enseignement anti-biblique, anti-parole. Ceux-là, ce sont les 68 millions qu'il a passés au fil de l'épée pour les faire mourir. Et il doit y en avoir littéralement des milliards qui sont morts spirituellement par son faux enseignement. Ce n'est pas étonnant qu'il ait pu se nommer la mort. Vous voyez le cavalier? Au départ, en tant qu'antichrist, il était la mort, pour commencer. Mais à l'époque, il était innocent. Ensuite, il a reçu une couronne, une triple couronne. Et à ce moment-là, il a uni, Satan a uni son Église et son État, parce qu'il était alors à la tête des deux. L'Antichrist, c'était Satan, sous la forme d'un homme. Et puis, aussi, dans Matthieu, je crois, au chapitre 4, il nous est dit ceci, Satan a transporté Jésus, notre Seigneur, sur un lieu élevé, et en un instant, il lui a montré tous les royaumes du monde, tous, avec leur gloire. Il a offert de les lui donner. Et il a dit, il lui appartenait. Alors, vous voyez, s'il peut unir son État et son Église, alors le cavalier au cheval roux, il va vraiment pouvoir y aller à fond de train. Voyez, c'est sûr. Donc là, nous voyons le mystère qui se rattache à lui, ici, dans son Église et son État. Dans la quatrième étape de son ministère, il s'appelle la bête. D'abord, il s'appelle l'Antichrist, vous voyez. Ensuite, il s'appelle le faux prophète. Puis, il s'appelle la bête. Or, nous le voyons ici, qui s'appelle la bête. Maintenant, j'aimerais vous faire remarquer que ça, c'est après le quatrième cheval. Et dans ce quatrième cheval, si vous remarquez, tout, le premier était blanc, le suivant était roux, le suivant était noir, et dans le quatrième, les trois autres étaient représentés. En effet, la couleur pâle, c'est un mélange de rouge et de blanc, et ainsi de suite. Voyez, ce cheval-là, c'était un mélange de tout ça. Voyez, et là, il est devenu quatre, ou en fait, c'était trois en un. Et lui, c'était un mélange de tout ça. Maintenant, je veux vous faire remarquer ces quatre. Remarquez, comme le quatre ne s'aligne pas dans les mathématiques spirituelles. Dieu est en trois. Ici, on a quatre. Celui-ci, il est en quatre. Premièrement, Antichrist, blanc. Deuxièmement, faux prophète, roux. Troisièmement, vicaire sur les cieux et la terre, et sur le purgatoire, noir. Quatrièmement, la bête, le cheval de couleur pâle, Satan, qui est chassé du ciel. Vous aimeriez lire ça? Apocalypse 12, 13. Satan chassé du ciel. Ensuite, dans Apocalypse 13, 1, 8, il s'incarne dans la personne de la bête. D'abord, c'est l'Antichrist, seulement un enseignement appelé le nicolaïsme. Ensuite, il se transforme en faux prophète. S'il est Antichrist, Antichrist, c'est contre. Tout ce qui est contre la parole de Dieu est contre Dieu, parce que la parole est Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole a été faite chair, Christ. Et elle a habité parmi nous. Et là, il est contre la parole. Donc, il est antichrist. Mais on ne peut pas couronner un esprit. C'est pour ça qu'il n'a pas reçu de couronne. Seulement un arc et pas de flèche. Ensuite, quand le temps de son couronnement est arrivé, c'est là qu'il est devenu le faux prophète de son enseignement antichrist. Vous saisissez? C'est là qu'il reçoit une épée, parce qu'il unit ses pouvoirs. À ce moment-là, il n'a plus rien à demander à personne. Il gouverne l'État, il gouverne le ciel. Il reçoit une triple couronne. Il se forge un concept appelé le purgatoire. Comme ça, si les morts qui sont là, quelqu'un a de l'argent et veut payer pour les faire sortir, il peut les faire sortir de là par des prières. En effet, il a le pouvoir de le faire. Il est un vicaire, assurément. Il prend la place de Dieu sur la terre. Ça ne peut pas être plus clair. Nous l'avons vu, nous l'avons montré par la Bible, nous avons calculé les chiffres de son nombre et tout le reste. Le voilà, ici même, dans le nombre 4, pas le nombre 3, le nombre 4, vous voyez? Maintenant, prenons Apocalypse 12. Lisons donc un petit peu ici, parce que nous avons le temps. Et lisons dans Apocalypse au chapitre 12 et au verset 13. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre. Non, je n'ai pas le bon endroit. Le 13e, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Là, vous voyez, il a été précipité de la terre et il s'incarne. Alors que l'esprit antichrist s'incarne dans un homme, cet homme passe par des transformations d'esprit antichrist à faux prophète, et ensuite la bête entre en lui. C'est exactement comme ça que l'Église progresse. Son Église à lui est passée d'antichrist à faux prophète. Et dans le grand âge à venir, la bête qui doit apparaître. Et c'est la même chose pour l'Église, qui passe par la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire Christ, dans les gens. C'est exactement ça. Et lui, c'en est l'antitype. Là-bas, voyez-vous, il en est le type plutôt. Et le voilà, c'est exactement ça. C'est lui, il est chassé du ciel. Maintenant, nous voyons dans Apocalypse 13, 1 à 8. Et je me tins sur les sables de la mer, puis je vis monter de la mer une bête. Bon, ici, en 12, il a été chassé. Maintenant, regardez bien. Vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur sa tête des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds, oh, si seulement nous avions le temps, là, nous pourrions passer le reste de la soirée sur ces symboles-là, et montrer qu'encore là, ça s'applique à lui. Tous, vous le savez, presque tous déjà, pour l'avoir entendu dans d'autres leçons. Était ceux d'un ours et sa gueule, une gueule de lion. Le dragon lui a donné sa puissance, son trône et son autorité. Satan incarné, voyez? Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Et ça continue comme ça, jusqu'au bout, si vous voulez. Quand vous le pourrez, lisez-le jusqu'au bout. Non, lisons donc un peu. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée, mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Regardez bien ça. Ne gardez surtout pas vos yeux fixés sur le communisme. Ce n'est rien d'autre qu'un outil dans les mains de Dieu pour vous permettre un jour pour tirer vengeance du sang, comme nous le verrons demain soir. Voyez? Et ils adorèrent le dragon. Le dragon, c'était qui? Satan. Pas vrai? Le dragon rouge. Bien, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. C'est là qu'il prend sa puissance, vous voyez? Et ils adorèrent la bête en disant, « Qui est semblable à la bête? Et qui peut combattre contre elle? » Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes de blasphème. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu. Et voilà, vous voyez? Bien. Pour blasphémer son nom, lui donner un titre. Son tabernacle, qui est la demeure du Saint-Esprit, d'en faire un lieu qui se trouve à Rome, une cité du Vatican. Et on pourrait continuer comme ça. Et ceux qui habitent dans le ciel, il a blasphémé contre eux en disant que c'était des intercesseurs. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et il l'a fait. Et de les vaincre, il l'a fait. Il les a brûlés sur le bûcher, il les a donnés en pâture aux lions, et il les a fait mourir de toutes les manières possibles. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Mais Rome n'en est venue là que lorsque la Rome païenne est devenue la Rome papale et que la puissance catholique s'est étendue dans le monde entier pour former l'Église catholique universelle. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre ne touchent pas à mon huile et à mon vin. Voyez. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau, immolé dès la fondation du monde. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Bon, hier soir, nous l'avons vu venir avec sa grande épée pour tuer. Nous voyons qu'il se fait tuer par l'épée aussi, par l'épée de la parole. La parole de Dieu, cette épée pénétrante, a deux tranchants. Elle le tue, elle le jette à terre. Attendez que ces sept tonnerres fassent entendre leur voix de ce groupe qui peut vraiment prendre la parole de Dieu et la manier. Là, elle va trancher et couper. Et ils peuvent fermer les cieux, ils peuvent fermer ceci ou faire cela, faire tout ce qu'ils veulent. Voir, il sera tué par la parole qui sort de sa bouche, qui est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Il pourrait faire apparaître 100 milliards de tonnes de mouches s'il le voulait. Amen. Tout ce qu'ils vont dire, ça va arriver. Parce que c'est la parole de Dieu qui sort de la bouche de Dieu. Oui. Amen. Dieu se sert toujours, c'est sa parole, mais il se sert toujours de l'homme pour la faire agir. Dieu aurait pu ordonner que les mouches apparaissent en Égypte, mais il a dit, « Moïse, ça, c'est ton travail. Je vais juste dire quoi faire. Et toi, fais-le. » Il l'a pleinement accompli. Voyez, il aurait pu choisir de les faire apparaître par le soleil. Il aurait pu faire que ce soit la lune qui les fasse apparaître, ou que le vent le fasse. Seulement, il a dit, « Moïse, ça, il a choisi son homme. » Très bien. Maintenant, nous voyons ici que ce Satan, après avoir été chassé du ciel, il s'incarne dans la bête. Et là, il est une bête. Antichrist, faux prophète, et là, la bête. Et il se fait appeler la mort. Et le séjour des morts l'accompagne. Satan à part entière, sur son trône. Oh là là! Sur la terre, c'est le représentant de Satan. Sur la terre, alors qu'il est maintenant à la tête des royaumes du monde, de ces mêmes royaumes qu'il a offerts au Seigneur Jésus dans Matthieu 4. Maintenant, Satan devient roi à part entière. Or, ça, c'est pour plus tard. En ce moment, il est un faux prophète. Il deviendra la bête au bout d'un certain temps, quand il rompra son alliance avec les Juifs. Vous le savez, nous en avons bien maintenant remarqué. À ce moment-là, il lui sera donné un cœur de bête, et Satan s'incarnera. En effet, quand l'Église monte, Satan est précipité. Voyez, alors c'est terminé. Toutes ces accusations, c'est terminé. Voyez, or, tant que... Regardez. Tant que l'intercesseur est encore sur le trône, Satan peut se tenir là et faire ses accusations parce qu'il est l'avocat de l'autre partie. Il est l'adversaire de Christ. Et Christ est, il est là, l'adversaire est là. Et il dit, mais attends, Adam est tombé, Adam a fait ceci, je l'ai vaincu. J'ai réussi à faire croire un mensonge à sa femme. Et tu as dit qu'elle serait damnée à cause de ça. J'ai réussi. Mais il y a le médiateur qui est là. Amen. Le parent rédempteur. Amen. Il est là avec ce sang qui peut transformer le cœur du plus vil pécheur. Le médiateur est sur le trône. Oui, monsieur. Satan a dit, mais ils sont coupables. Il peut dire, non. L'eau de Javel, ils l'ont inventée ou fabriquée pour détacher, pour décolorer de l'encre ou n'importe quelle autre tache. Ils ont ce produit. Il va décomposer les taches au point qu'on ne peut même plus les retrouver. Elles redeviennent des gaz et elles remontent même jusqu'à la lumière cosmique et encore plus loin que les molécules et tout le reste, si bien qu'elles retournent à leur origine. D'où elles sont venues? C'est une création. Une création, ça doit venir d'un créateur. Mais tous les composants chimiques qui sont entrés dans sa fabrication, ils se sont défaits. C'est aussi simple que ça. Il n'en reste plus rien. Jusqu'aux éléments même de l'eau, les cendres qui vont se mélanger à l'eau de Javel. Amen. Gloire à Dieu. Tout est propre. C'est ce que le sang de Jésus-Christ fait pour le véritable enfant de Dieu quand il confesse son péché et qu'il se tient là, justifié dans son « Oh, miséricorde !» Et c'est tellement glorieux que Dieu a dit « Je ne m'en souviens même plus. Il est incontestablement mon Fils. » En vérité, je vous le dis, si vous dites à cette montagne, « Ôte-toi de là !» et que vous ne doutez pas dans votre cœur, mais que vous croyez en ce que vous avez dit, vous, cela arrivera. Ce que vous aurez dit vous sera fait. Vous êtes un fils racheté. Amen. Et je sais que c'est vrai. J'ai vu apparaître des écureuils là-bas, à 6 reprises différentes, alors que je ne savais pas qu'aucun d'eux serait là. Il peut créer des écureuils aussi bien qu'il peut créer des mouches, des grenouilles ou n'importe quoi. Il est Dieu, le Créateur. Exact. Et alors qu'aucun être mortel... Mais quand le péché de cet être mortel est confessé et plongé dans cette eau de Javel, du décolorant de Jésus-Christ, celui-ci blanchit de tout péché. Il est purement et parfaitement sans péché, sans faute. Celui qui est né de Dieu ne commet pas le péché, parce qu'il ne peut pas pécher. Le décolorant est là, entre lui et Dieu. Comment pourrait-il se rendre jusque-là, alors qu'il le décompose et le renvoie directement à celui qui est responsable de la perversion? Amen. Je me sens religieux. Je vous le dis, la stimulation me gagne là, à mesure que la révélation s'ouvre. Remarquez, Satan à part entière, sur son trône. Oui, monsieur, il l'a offert à Dieu, il l'a offert à notre Seigneur. Et le voici, assis là, avec ce cœur de bête en lui. Maintenant, voilà la personne, la bête, le diable incarné. Il se présente ici sur la terre, en prétendant faussement, oh miséricorde, en prétendant faussement avoir la vraie parole. Il s'associe à la parole. Il a fait exactement la même chose que son type avait fait, c'est-à-dire Judas, il y a 2000 ans. Qu'est-ce qu'il avait fait? Judas s'est introduit en se faisant passer pour croyant, alors qu'il était un démon dès le commencement. Il est né fils de la perdition. Jésus ne s'est pas laissé prendre à son jeu, parce qu'il le connaissait depuis le commencement. Amen. En effet, il était la parole. Très bien. Et souvenez-vous, Judas a pris le poste de trésorier, et l'argent a causé sa chute. C'est pareil pour l'Église d'aujourd'hui. L'Église catholique, comme nous l'avons vu hier soir, elle faisait payer les neuvaines, elle faisait payer les prières, elle faisait tout payer. C'est presque la même chose qui est arrivée aux filles de l'Église catholique, les églises protestantes. Tout se résume à une question d'argent. C'est ce qui a causé la chute de Judas, c'est ce qui a causé sa chute à lui, et c'est ce qui cause la chute des protestants. Regardez bien, il monte un cheval de couleur pâle, alors qu'il arrive pour sa chevauchée, cette dernière chevauchée. C'est sa dernière, là. Or ça n'arrivera pas dans notre jour. Ce sera plus tard. C'est le sceau annoncé d'avance. En effet, vous voyez, l'Église aura déjà été enlevée quand ceci arrivera. Quand Christ apparaîtra ici sur la terre, comme cet individu apparaît, il devient complètement le diable. À partir d'Antichrist, tout le long, en passant par faux prophètes, pour ensuite entrer dans la bête, le diable lui-même. Et il monte un cheval de couleur pâle, de toutes sortes de couleurs mélangées, qui lui donne cette couleur pâle, cette couleur de mort. Mais quand notre Seigneur apparaîtra ici sur la terre, il montera un cheval blanc comme neige, et il sera complètement et entièrement l'Emmanuel, la parole de Dieu incarnée dans un homme. Voyez, voilà à quel point ils sont différents. Voilà la différence qu'il y a entre eux. Remarquez, l'Antichrist monte un cheval de couleur pâle, aux couleurs mélangées. Un cheval est un animal, ce qui représente une puissance. Sa puissance est toute mélangée. Comment ça? Il y a la politique, il y a les puissances nationales, il y a les puissances religieuses, il y a les puissances démoniaques. Il y a toutes sortes de puissances mélangées. C'était un cheval de couleur pâle, aux couleurs mélangées. Il possède toutes sortes de puissances. Mais quand Jésus arrive, c'est sur un cheval d'une seule couleur, la parole. Amen. L'autre, il mélange ses couleurs. Le rouge, le blanc, le noir. Trois couleurs dans une, représentées dans une. Et trois puissances représentées dans une. Le cheval blanc, le cheval noir, le cheval roux. Et trois couronnes dans une. Voyez, certainement. Je l'ai vue moi-même, cette couronne. Je n'en étais, oh, pas plus loin que ça, et je l'ai examinée. Je n'ai pas pu y toucher, parce que c'était vitré. Et donc, elle était là, c'était fermé à clé, dans une vitrine, la triple couronne. Alors je sais que c'est la vérité. Oui, donc, il était là, avec sa triple couronne, vicaire, sur le ciel, sur le purgatoire et sur la terre. Trois puissances réunies, vous voyez, et dont le mélange donnait une couleur pâle. Tout cela parlait de la mort, les puissances politiques et religieuses et démoniaques mélangées. La politique, Satan, c'est le roi de la politique. Intelligent, c'est sûr. N'essayez pas d'être plus malin que lui. Faites simplement confiance au Seigneur. C'est tout. Comme j'ai déjà dit, tout cela, toutes ces choses, l'intelligence, l'instruction et tout, ça vient du mauvais côté. Observez cela tout le long des Écritures et voyez si ce n'est pas vrai. Observez la lignée des enfants de Cain et voyez ce qu'ils sont devenus. Ensuite, observez la lignée des enfants de Seth et voyez ce qu'ils étaient. Ce n'est pas que j'encourage l'ignorance, pas du tout. Non, monsieur. Mais prenez presque tous les personnages de la Bible. Il est très rare. Il y en a eu un, du nom de Paul, qui était un homme intelligent. Et il a dit qu'il avait dû oublier tout ce qu'il savait pour connaître Christ. Il a dit, « Je ne suis pas venu vers vous avec les discours persuasifs de la sagesse, mais je suis venu vers vous avec la puissance de la résurrection de Christ. » C'est exact, la puissance du Saint-Esprit. Regardez les autres. Certains d'entre eux ne savaient même pas distinguer leur droite de leur gauche. Remontez à l'époque des prophètes et voyez d'où ils venaient et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, eux, ce sont les intelligents, les intellectuels, la sagesse. La sagesse, c'est précisément la chose même qui vous éloigne de Dieu. Il avait trois puissances ou trois juridictions. La terre, le ciel et le purgatoire. Il est lui-même une trinité. C'est ce qui le constitue. Et il chevauche dans une trinité. Sa puissance est dans une trinité. Sa couronne est dans une trinité. Son cheval est dans une trinité. C'est ce qu'il est, une trinité. Une trinité dans sa puissance, une trinité dans sa couronne, une trinité dans sa chevauchée, c'est-à-dire dans ses fonctions. Encore un quatre, voyez-vous, encore un quatre. Bien. Les trois étapes de son ministère font de lui une personne, Satan incarné. Les trois étapes du mini antichrist, faux prophète et bête. Ces trois-là qui sont des types, vous voyez. Maintenant, il y a trois types là. Voilà ce qui le constitue. Dieu aussi se fait connaître dans l'eau, le sang et l'esprit. Ce qui fait d'un chrétien un fils de Dieu par la parole de Dieu. Voyez. Et ces trois puissances-là font de lui un diable. Voyez, oh, ceci, ici, c'est l'eau, le sang et l'esprit qui viennent de Dieu. Et là, c'est la politique, la religion et la puissance démoniaque mélangées qui font de lui le diable. La première venue de Christ, en tant que mortel, il vient trois fois. Christ est en trois, voyez, regardez comment il vient. Lui, c'est en quatre. Observez Christ. À sa première venue, il est venu en tant que mortel pour verser son sang et mourir. Pas vrai? Ça, c'est sa première venue. La deuxième venue, c'est l'enlèvement. Nous le rencontrons dans les cieux, immortel. À sa troisième venue, il est le Dieu incarné. Amen. Dieu, Emmanuel, pour régner sur la terre. C'est exact. Trois seulement. La quatrième étape du cavalier, regardez bien. La quatrième étape de ce cavalier est appelée la mort. La mort, ça veut dire la séparation éternelle d'avec Dieu. C'est ce que la mort veut dire, d'être séparé éternellement de Dieu. Maintenant, si nous avons défini cet individu, écoutez, si nous avons montré par la Bible qui est cet individu, et nous avons même examiné les collines, l'endroit, partout, nous avons décortiqué tout ça dans les détails. Et maintenant, l'aigle lui donne le nom de la mort. C'est le nom qu'il lui donne. Souvenez-vous, là, vous voyez, la mort, c'est la séparation éternelle. Souvenez-vous, les saints ne meurent pas. Ils dorment. Ils ne meurent pas. Celui qui écoute mes paroles et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. C'est exact. Il ne vient pas en jugement. Il est passé de la mort à la vie. « Je suis la résurrection à la vie », a dit Jésus. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Lazare, mort, il dort. Ne craignez pas, la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Ils se sont moqués de lui, pas vrai? Oh là là, vous voyez, les saints ne meurent pas. C'est la séparation d'avec Dieu qui est la mort éternelle. Et cet homme-là, il se nomme la mort. Alors, tenez-vous loin de lui. Qu'est-ce qu'il est? Un système organisé, un système d'organisation. Le premier, l'Église organisée numéro un, quand il a adopté l'entendement de Constantin au Concile de Nicée. Nous avons parlé des femmes hier soir, et nous avons montré qu'Ève, la première épouse, avant même que son mari ne soit venu vers elle, elle est tombée parce qu'elle n'a pas cru la parole de Dieu en Éden. L'épouse spirituelle qui est née de Christ le jour de la Pentecôte, avant qu'il puisse venir vers elle, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est tombée à Rome. Qu'est-ce? Elle a renoncé à sa vertu, la parole, pour prendre des dogmes. Amen. Oh là là, je sens encore la stimulation qui commence à me gagner. Oui, monsieur, de penser que cela, je ne fais pas exprès de me conduire comme un insensé. Je ne fais pas exprès. Mais c'est simplement que vous ne vous rendez pas compte de l'effet que cela a sur moi. Ça fait 4 jours que je suis là-dedans. Simplement, et il faut simplement que je dise quelque chose pour me ramener un peu sur terre. Vous savez ce que je veux dire? Oui. Bien, quand je me mets à parler comme ça, je vois apparaître des visions un peu partout. C'est vrai, vous voyez, c'est pour ça que je dis quelque chose pour me ramener, pour me sortir de là, voyez. Avez-vous déjà remarqué ce que je fais quand j'ai une ligne de discernement? Je dis quelque chose qui fait rire les gens. Ensuite, je dis quelque chose qui les fait pleurer. Ensuite, je dis quelque chose qui les met en colère. Il y a quelque chose que je suis en train d'observer, et je dis quelque chose pour voir quel effet ça produit. Alors, je peux voir la sorte de lumière qu'il y a sur eux, ce qui se passe. Je sais de quoi il s'agit, et je sais s'il appelle ou non. Sinon, si c'est un croyant authentique qui est assis là, alors, d'accord. Alors vous les appelez, et vous dites, « Vous, un tel. » Et quand vous entrez dans l'esprit, qu'il commence à oindre, alors vous vous mettez à voir des éclats de lumière surgir de tous côtés. Voyez-vous, comme ça, partout, partout dans la salle. Alors, c'est pour ça que je dis quelque chose, pour me ramener un peu, pour recommencer, vous voyez. Depuis dimanche dernier, je reste assis là, dans une pièce, à prier, c'est tout, et sous l'onction. Et je sais que ceci, c'est vrai. Vous croyez Dieu, je le sais. Attendez un peu qu'on arrive à la fin de la semaine. Oui, voyez, voyez, bien, voyez. Donc, la mort, ça veut dire la séparation éternelle avec Dieu. Et souvenez-vous, là, les saints ne meurent pas. Souvenez-vous, son épouse a reçu un cheval de couleur pâle. Je veux dire, ce cavalier a reçu un cheval de couleur pâle, comme monture. Il a reçu ce cheval de couleur pâle, comme monture. Il montait ce cheval de couleur pâle, la mort. Or, nous savons ce que c'était, ça. Nous savons de quelle église il s'agissait là. Et souvenez-vous d'hier soir, elle était non seulement une prostituée, mais elle était la mère des prostituées. Et nous avons vu que ce qui faisait d'elle une prostituée, c'était une femme qui était cette sorte de femme là. C'est direct comme terme employé parmi un auditoire mixte. Mais c'est la Bible qui le dit, vous voyez. Alors donc, nous savons que ça, c'est une femme qui est infidèle à ses vœux de mariage. Et vous voyez, elle est censée être, elle se donne le nom de la reine du ciel. Ce serait alors l'épouse de Dieu. Dieu, c'est Christ. Et nous avons vu qu'elle commet fornication et qu'elle entraîne dans la fornication les rois de la terre et tous les riches et tous les grands. La terre entière lui a fait la cour. Voyez. Ensuite, nous avons vu qu'elle a produit des filles, et c'était des impudiques. Une impudique, qu'est-ce que c'est? Sinon une prostituée, la même chose. Une fornicatrice, les fornications, le mal, les adultères, se livrant à cela. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles se sont organisées en système. Elles ont enseigné des systèmes faits de main d'homme, les pentecôtistes et toutes les autres. Maintenant, ne mettez pas votre conscience dans votre poche, vous les pentecôtistes. Laissez-moi vous dire quelque chose. Regardons les choses bien en face. L'heure est trop tardive maintenant pour prendre des gants blancs. Regardez bien, là, nous vivons dans l'âge de l'Église de Laodicée. Et cet âge de l'Église, c'était le plus ridicule d'entre tous. Un âge de tiédeur, et le seul où Christ était à l'extérieur, cherchant à rentrer. Et voilà le message pentecôtiste qui est proclamé. ils disent, « Je suis riche. » Ah, tu étais pauvre avant. Maintenant, tu t'es vraiment enrichi, tu vois. Je n'ai besoin de rien. Oh, tout ce que tu étais. Il a dit, « Tu es nu, misérable, aveugle, pauvre, malheureux, et tu ne le sais même pas. » Maintenant, si un homme était nu, là dans la rue, et qu'il le sache, eh bien, il essaierait de se sortir de là. Mais quand il ne le sait pas, et que vous ne pouvez pas lui faire entendre raison, là, il est vraiment mal en point. Que Dieu ait pitié de lui, c'est vrai. Remarquez, oh là là, maintenant souvenez-vous, comme cet Antichrist lui-même, c'est l'homme, son épouse, c'est-à-dire son Église. Il lui était donné du temps pour qu'elle se repente, et elle ne s'est pas repentie dans cet âge de l'Église de Thyatire. Vous vous en souvenez? Pouvez-vous? Eh bien, revenons-y un instant. Ça ne nous nuira pas d'y revenir un instant. Revenons-y au chapitre 2, un instant. On va juste lire au chapitre 2 de... Donc, Thyatire. Maintenant, regardez bien ça. On va faire vite, là. Oh là là, c'est bientôt l'heure de terminer, et on n'a pas encore commencé. Mais remarquez, Thyatire, bon, ça commence au verset 18 du chapitre 2, écrit à l'ange, c'est-à-dire au messager de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme des flammes, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres que tu as plus nombreuses que les... et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. Voilà, vous la connaissez dans la Bible, c'était l'épouse d'Achab. Et voici la femme, l'Église, Jézabel, l'épouse du faux prophète, qui est soi-disant le véritable prophète de Dieu, le pape. Exact, le véritable prophète et son épouse, Jézabel. Or, Achab était soi-disant un juif véritable, mais c'était un vaurien, vous le savez. Parce que sa femme le menait par le bout du nez. Nous voyons que Jézabel se sert de son argent pour mener ceux-ci par le bout du nez aussi. Qui se dit prophétesse, vous saisissez? Enseignez et subjuguez mes serviteurs. Vous voyez, cet enseignement de Jézabel a littéralement sillonné le pays pour qu'il se livre aux fornications et qu'il mange des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, voyez. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Écoutez bien le verset suivant. « Je vais la jeter sur un lit, c'est l'enfer, et envoyer de grandes tribulations à ceux qui commettent adultère avec elle. » C'est-à-dire qu'ils iront dans la grande tribulation, mais pas l'Église, là, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Maintenant, attention, ici. « Je ferai mourir de mort ses enfants, ses prostituées, de mort spirituelle. » Le croyez-vous? C'est la parole. Je les ferai mourir de mort. Et s'ils sont mis à mort, ils sont séparés éternellement. Bien, souvenez-vous, il lui a donné du temps pour qu'elle se repente. L'âge de Thyatire, c'était l'âge des ténèbres. C'était l'époque de la chevauchée du cavalier au cheval sombre, alors qu'il fallait payer toutes les messes et tout, les prières et les neuvaines et tout le reste. Maintenant, vous voyez, de son cheval noir, là, après avoir refusé de se repentir dans l'âge de Thyatire, alors quoi? Il change de monture, du cheval noir sur celui d'une couleur pâle, la mort, pour son dernier ministère. Maintenant, je vais me permettre ici de secouer un peu chacun, individuellement. Si vous refusez Dieu, si vous refusez l'appel de Dieu, un de ces jours, vous le ferez pour la dernière fois. Alors, comme ça s'est passé pour cette église-là, ce sera terminé. Dieu, sa patience, il ne contestera pas toujours avec l'homme, voyez? Et après avoir refusé cela et refusé de l'accepter, alors elle a changé. Elle, là, elle a un nom, c'est la mort, la séparation. Dieu a dit, « Je vais même prendre ses enfants, les protestants, et je vais tous les faire mourir de séparation éternelle. » Voilà, l'âge de Thyatire, l'âge des ténèbres. Son cheval noir devient alors la mort pour son dernier ministère. Vous voyez comme les âges de l'Église s'harmonisent bien avec les sceaux? Absolument parfait. Alors nous savons que c'est juste. Le Saint-Esprit ne fait pas d'erreur. Il nous a donné une glorieuse confirmation la dernière fois, quand on a eu terminé les âges de l'Église. Là, vous savez. Voyez comme la patience de Dieu reflète son amour. Avant de prononcer un jugement sur elle, il lui a donné du temps pour qu'elle se repente. Et c'est au nom du Seigneur que je dis ceci. Il en a donné à l'Église protestante aussi. Et elle refuse de se repentir. La secousse du message s'est fait sentir partout. Et elle refuse de se repentir. Elle va garder ses propres dogmes et ses propres credos, peu importe combien vous le lui expliquez. Comme je l'ai dit l'autre jour à Chicago, devant plus de prédicateurs qu'il y a de gens assis ici. Il m'avait fait venir là pour me coincer sur la doctrine, la semence du serpent et tout le reste. J'ai dit que quelqu'un prenne donc sa Bible et vienne se placer à côté de moi dans ce cas-là. Et personne n'a dit un mot. Tommy Hicks a dit, « Je ne l'avais jamais compris comme ça avant, frère Branham. Je veux 300 copies de cette bande. Je vais en envoyer à tous mes prédicateurs. » À peu près 50 ou 75 d'entre eux avaient dit, « Je vais aller chez vous me faire rebaptiser. » Est-ce qu'ils sont venus? Pas un seul. Pourquoi? Il leur a donné du temps pour qu'ils se repentent. Et il livrera ses enfants à la mort spirituelle. On reprendra ça demain soir, si le Seigneur le veut, ou samedi soir, quand on parlera des fléaux qui vont être déversés. Vous allez voir ce qui va se passer là. Comme il l'avait fait pour l'Égypte, il avait donné à l'Égypte du temps pour qu'elle se repente. Et la dernière plaie, c'était quoi? C'était la mort. C'est la dernière plaie qui s'est abattue sur l'Église pentecôtiste, la mort spirituelle. Elle est morte. Je le dis au nom du Seigneur. Elle est morte spirituellement. Il lui a donné du temps pour qu'elle se repente. Et elle a rejeté cela. Maintenant, elle est morte. Elle ne se relèvera jamais. Et ces gens qui essayent de faire rentrer les épiscopaux, les prêtres et tout, et qui les appellent le Saint-Père un tel, voyons, ils devraient avoir honte. Comment peut-on être aveugle à ce point-là? Est-ce que Jésus ne l'a pas dit? Quand cette vierge endormie est venue acheter de l'huile, elle n'en a pas eu. Tout le monde, on les entend, les gens, ils disent, « J'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai parlé en langue, mais ils ne veulent pas fréquenter une église comme celle-ci. » Oh, vous savez, je ne crois pas que j'aimerais fréquenter ce genre d'endroit-là. Et vous dites que vous avez le Saint-Esprit? Mais vous voulez garder votre décorum. Vous voulez rester dans Babylone et quand même jouir des bénédictions du ciel. Vous devez faire votre choix. Vous ne pouvez pas rester là-bas dans le monde et servir Dieu en même temps. Jésus a dit que vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Alors, si vous ne vous attendez pas, si vous êtes vraiment sauvé, vous aimerez être à des réunions où le Saint-Esprit se confirme et montre que la parole de Dieu est vraie. Quelqu'un disait, « Les gens font trop de bruit, ça m'énerve. » Vous allez être à bout de nerfs alors, si vous allez au ciel. Pensez-y. Quand ils seront tous là-haut, alors qu'est-ce que ça va être? Oh là là, combien le Seigneur veut arriver à... Il est patient, comme il a été au jour de Noé. Il s'est donné beaucoup de peine. Il a usé de patience pendant 120 ans pour les amener à la repentance. Ils ont refusé de se repentir. Au jour de l'Égypte, il a envoyé des plaies et tout le reste. Ils ont refusé de se repentir. Il a envoyé Jean. Ils ont refusé de revenir. Il a envoyé Jésus mourir pour sauver le groupe de tous ceux qui écouteraient la parole. Et maintenant, dans les derniers jours, il a encore promis d'envoyer un message pour l'appeler à sortir et pour la ramener à la foi originelle, la ramener à la parole. Et ils refusent de l'accepter. Ils sont tellement dogmatiques avec leurs dogmes et leurs credos qu'ils n'en veulent pas. Oh, ils s'imaginent que s'ils avaient, que si un ange descendait. Mais Dieu ne fait pas ça. Il prend un ignorant, un imbécile, quelqu'un qui ne sait même pas son alphabet, ni rien, ou c'est tout juste. Et donc, c'est ce genre de personne-là qu'il prend, parce qu'il peut prendre quelque chose qui n'est rien, et puis agir à travers. Tant qu'on s'imagine être quelque chose, alors il n'y a rien à faire avec ça. Il a toujours agi ainsi. Ils vous font devenir un rien du tout, pour devenir quelqu'un avec Dieu. Oh là là. Remarquez, encore là, il lui a donné du temps pour qu'elle se repente, mais elle ne s'est pas repentie. Il l'a fait de nouveau, elle refuse toujours. Son rejet, un moyen fait d'elle, ou son rejet offre à Satan le moyen parfait d'entrer en elle et de s'incarner. C'est vrai, de s'incarner directement en elle parce qu'elle a rejeté la parole. Et c'est exactement comme ça que l'Église protestante devient une prostituée. C'est parce qu'elle rejette la vérité confirmée de la parole de Dieu. Et c'est ce qui fournit au diable le moyen d'entrer et de s'incarner. Et il fera une image à la bête lors de cette union, là-bas, là. Et ça se passe exactement comme il l'avait dit. C'est exact. Amen. Si j'avais de l'instruction, je pourrais faire ressortir cela. Je n'ai pas d'instruction. Je compte seulement sur le Saint-Esprit pour qu'il vous le révèle. Et il le fera à ceux qui... C'est vrai, il le fera. Oui. Remarquez, regardez de quelle façon ce qu'elle a fait là. Elle a rejeté le message de Dieu qui l'appelait à la repentance. Elle a commencé comme Antichrist et c'est ce qu'elle était. Elle s'est transformée en faux prophète, en démon incarné. Et à ce moment-là, par son faux enseignement. Et puis, malgré tout ça, Dieu lui a donné du temps pour qu'elle se repente. Il a essayé de l'amener à lui. Vous voyez comme il est patient? Quel amour merveilleux! C'est un amour incomparable. Voyez, même ceux qui lui ont craché au visage et tout, il leur a pardonné. C'est Dieu, ça, vous voyez? Ne, elle rejette le message de Dieu. Regardez, il lui a été demandé de se repentir, de revenir à l'endroit d'où elle est tombée. Et d'où est-elle tombée? De la parole. Exact. D'où Ève est-elle tombée? La parole. D'où les dénominations sont-elles tombées? Voilà. Voyez? Il n'y a pas d'autre moyen. Absolument, chaque fois, ça revient tout droit à la parole. Tout droit à la parole. Voyez? Et ils entrent dans un système qui les éloigne à nouveau de la parole, qui fait qu'ils s'éloignent de la parole au lieu de s'approcher de la parole. Remarquez, regardez, il lui était donné du temps pour se repentir, pour revenir. Se repentir, ça veut dire revenir, faire demi-tour, faire volte-face. Se repentir, revenir. Et il lui était donné du temps pour qu'elle revienne à l'endroit où... Maintenant, souvenez-vous, elle était l'église pentecôtiste originelle sur laquelle le Saint-Esprit avait été répandu le jour de la Pentecôte. Combien le savent ici, parmi ceux qui étudient la Bible? C'est sûr, elle l'était. Vous voyez d'où elle est partie? Elle est tombée de la parole pour accepter des dogmes. Elle s'attend au lieu de l'Esprit Saint. Elle voulait un homme saint, docteur en ci, en ça, etc. Et elle en a ensuite fait un pape, voyez? Certainement. Mais elle, c'est ce qu'elle voulait, quelqu'un qui prierait à sa place. Quelqu'un, elle n'aurait qu'à donner de l'argent, et c'est tout ce qu'elle aurait à faire, voyez? Or, c'est pareil aujourd'hui, tant qu'ils ont leur bon à l'église, et qu'ils mettent beaucoup d'argent dans le plateau à offrande, c'est suffisant. Ils sont membres de cette église-là. Ne leur en dites pas plus long, ils ne veulent pas savoir. Ce sont ses filles. Donc, d'où est-elle tombée? De la parole originelle apostolique des apôtres et des prophètes. C'est de là qu'elle est tombée. Et c'est de là que les protestants sont tombés. Repentez-vous, revenez, faites demi-tour avant qu'il ne soit trop tard. Il n'est pas encore trop tard. Un de ces jours, l'agneau quittera son lieu et à ce moment-là, ce sera terminé. Maintenant, il est donc aussi demandé à ses filles, avant d'être jugé avec elles, de revenir. Or, le dernier message qu'elles reçoivent, c'est quand ce prophète dont j'ai parlé. D'ailleurs, j'ai lu beaucoup de livres là-dessus, et je sais qu'il y a des hommes pleins de bon sens, des hommes spirituels, qui savent que ça va venir. Ils le savent. Ils savent que ça va venir, voyez-vous? Mais le problème, c'est qu'ils passent leur temps à dire... C'est ce qu'il nous faut, ça va venir. Et quand cela viendra, alors qu'ils seront tellement humbles, les gens vont probablement passer à côté, exactement comme ils l'ont fait la fois passée. C'est vrai, les gens écriront là-dessus et tout le reste, ils diront, « Oh oui, c'est un besoin !» Et puis, quand c'est là, devant leurs yeux, ils continuent tout simplement leur chemin, vous voyez? Alors, ils ont toujours agi comme ça. Remarquez, là, la parole originelle, elle doit encore se repentir pour y revenir. Il a été demandé la même chose à ses filles. Elles seront contraintes, elles seront jugées et jetées sur le même lit qu'elles et tuées avec elles. Il leur a été demandé de revenir à la parole originelle, de retourner à la doctrine apostolique. Mais elles sont tellement liées par leur credo et tout qu'elles refusent de le faire. Elles se contentent de s'en moquer. Et alors, elles, qu'est-ce qu'elles font? Elles finissent par former l'image de la bête, une autre puissance. Remarquez, elles agissent envers l'épouse de l'agneau comme elles l'avaient fait dans Apocalypse 13, 14. Voilà ce qu'elles font. Elles persécutent, tout simplement, exactement la même chose. Les églises se moquent de la véritable épouse de Christ, autant que Rome l'a toujours fait. Tout à fait. Oui, monsieur. Elles agissent envers la vraie épouse de l'agneau, exactement comme elles l'avaient fait dans Apocalypse 13, 14. Maintenant, remarquez, nous voyons par la promesse de la parole de Dieu qu'il va tuer ses enfants, les dénominations, ses filles, par une mort spirituelle. Maintenant, ça, c'est Apocalypse 2, 22. Ne l'oubliez pas. Tuer, c'est mettre à mort. Et la mort, c'est la séparation éternelle de la présence de Dieu. Pensez-y, mes amis. Pensez-y. Ne vous reposez surtout pas sur des credos faits de main d'homme. Tout ce qui est contraire à la parole, tenez-vous-en loin. Maintenant, regardez bien la Bible ici. Il est dit qu'il se nommait le séjour des morts, et, je veux dire, il se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Or, le séjour des morts accompagne toujours la mort dans le naturel. Quand l'homme naturel meurt, le séjour des morts l'accompagne, c'est-à-dire la tombe, le Hadès, vous voyez, ça c'est dans le naturel. Mais dans le spirituel, c'est l'étang de feu, vous voyez, très bien, c'est la séparation éternelle, alors qu'ils sont consumés. Et Malachie 4 dit qu'il ne leur laissera ni chaume, ni rameau, ni rien d'autre. C'est par ce moyen que le monde va se purifier à nouveau, pour le millénium, voyez. Avez-vous remarqué, le cavalier c'est « il ». Et il tenait dans sa main un homme, un faux prophète. Mais son épouse s'appelle l'Église, elle, Jézabel. Achab, Jézabel. Voyons, ça ne pourrait pas être plus parfait. Voyez, voyez. Les filles aussi, c'est elles. Seulement, elles n'ont jamais accepté qu'un homme prenne à lui seul la direction. Elles sont protestantes quant à cela. Mais elles sont quand même des prostituées, par le principe de leur doctrine, la dénomination, les systèmes. C'est ce qui est dit. Remarquez, à quoi tout cela va-t-il aboutir? Maintenant, il ne nous reste plus que 12 ou 14 minutes, je pense. Regardez à quoi tout cela va aboutir. Qu'est-ce que c'est? C'est un retour à ce qui s'est passé au commencement dans le ciel. Cela aboutit au combat du temps de la fin. La première chose qui s'est passée dans le ciel, c'est un combat. Lucifer a été chassé et il est venu sur la terre. Alors, il a pollué l'Éden. Et depuis ce temps-là, il n'a pas arrêté de polluer. Et maintenant, du combat dans le ciel, on aboutit au combat sur la terre. Et cela doit se terminer sur la terre, au temps de la fin, par un combat appelé Armageddon. Or, tout le monde sait ça. Le combat a commencé dans le ciel, saint, alors ils l'ont chassé. Michel et ses anges l'ont vaincu, il a été chassé, et à ce moment-là, il est descendu tout droit en Éden. Et c'est là que le combat a commencé, ici sur terre. Rends compte, Dieu avait mis ses enfants bien à l'abri, fortifiés par sa parole. Mais Ève s'est rendue vulnérable en disant, « Je crois que tu as raison, peut-être. » Et voilà, c'était parti. Et depuis ce temps-là, ça n'a pas arrêté. Ensuite, Dieu est descendu, et maintenant il est descendu pour racheter ceux qui viendraient. Comme je l'ai dit, Dieu est semblable à un grand entrepreneur. Il dépose tous ses matériaux sur la terre, ensuite il construit ses bâtiments. Maintenant, souvenez-vous, avant qu'il y ait un grain de semence sur la terre, avant que le soleil frappe la terre pour la première fois, votre corps était déjà sur la terre, parce que vous êtes la poussière de la terre. Voyez, c'est ce que vous êtes. Dieu est l'entrepreneur. Or, le moyen qu'il aurait pris, c'est de ramasser, comme il l'avait fait pour Adam, un peu de calcium, de potasse et de lumière cosmique. Et dire, voilà mon autre fils. Voyez, ensuite, il en aurait ramassé encore et en voilà un autre. Mais qu'est-ce qu'Ève a fait? Elle a corrompu ce moyen-là. Et c'est elle qui a produit cela par un acte sexuel. Et alors la mort a frappé. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Il a un certain nombre de semences là qui sont prédestinées, une quantité précise d'entre elles qui sont prédestinées. Et alors, au temps de la fin, il ne dira pas, « Ève, viens mettre au monde un autre enfant. » Il va appeler et je répondrai. C'est tout. C'est ça. C'est comme ça que ça va se passer. Quand le dernier sera entré, ce sera la fin. Donc, le combat a commencé dans le ciel. Il se terminera sur la terre sous la forme d'Armageddon. Maintenant, regardons cela s'ouvrir devant nous, et peut-être que nous pourrons le dévoiler. Que le Seigneur nous aide en ce moment à le faire, là. Regardez cela s'ouvrir. Le cavalier mystérieux, regardez ce qu'il fait maintenant. Il s'est opposé, il a refusé de se repentir et de revenir à la parole originelle, la parole de sang. La parole s'est faite sang et chair. Vous voyez, il a refusé de revenir à elle. Il est Antichrist, la véritable épouse parole. Il s'oppose à la véritable épouse parole. Il prend sa propre épouse. Il combat cette véritable épouse. Il prend sa propre épouse et l'amène à lui par une forme de religion qui s'appelle les credos et les dogmes. Voyez, et là, quand il voit la sainte épouse, il est contre elle. Mais il se forme une épouse à lui, appelé Antichrist, à cause de son enseignement Antichrist, qui est contraire à Christ. Vous voyez comme il est rusé? Et maintenant, au lieu que ce soit l'unité de l'amour qui domine, l'adoration sous le sang, il a une dénomination. Au lieu de la parole, il a pris des credos, des dogmes, et ainsi de suite. C'est comme les protestants qui parlent du credo des apôtres. Trouvez-moi donc un seul mot là-dessus dans la Bible. Apôtre, credo des apôtres, ça n'existe pas dans la Bible. Comme je le disais ici, il n'y a pas longtemps, là ou quelque part. Si les apôtres ont eu un credo, c'est Actes 2.38. Précisément, je ne lui en ai jamais connu d'autre. C'est ce qu'il demandait à tout le monde de faire. Quand il en a rencontré qui avait l'air d'être chrétien, il a dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru ?» Ils ont dit, « Nous ne savions pas qu'il y avait... » Il a dit, « Dans ce cas-là, comment avez-vous été baptisé ?» Or, de se faire baptiser au nom de Jésus, ou plutôt au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est bien. Mais ça ne s'arrête pas encore là. Non, monsieur. Vous pourriez vous faire baptiser 50 fois de cette manière-là, et ça ne vous servira absolument à rien, tant que votre cœur n'aura pas été changé par le Saint-Esprit. Tout ça, ça doit aller ensemble. Remarquez, c'est Christ. L'Antichrist rejette la doctrine de la véritable épouse. Et donc, il prend sa propre épouse, là, et il l'édifie sur un credo de sa propre fabrication. Il prend sa propre épouse, et l'on fait une dénomination. Elle donne naissance à d'autres dénominations. C'est ce qui est dit dans les Saintes Écritures. Elle donne naissance à des filles. Et elle devient comme sa mère, naturelle, mondaine, dénominationnelle. Elle s'oppose à l'épouse spirituelle, la parole. Ils ne disent pas qu'ils ne sont pas membres de l'Église. Parlez donc à quelqu'un d'une dénomination. Bien sûr, je suis membre de l'Église. Êtes-vous chrétien? Je suis membre de l'Église. Ça n'a absolument rien à y voir. Ils disent, vous n'êtes pas membre de l'Église, vous pouvez peut-être être membre d'une soi-disant Église, vous voyez, membre d'une Église. Ce n'est pas une Église, ça. Ce ne sont pas des Églises, ce sont des clubs où les gens se réunissent et les gens comme les oiseaux d'un même plumage. Mais vous n'êtes qu'une seule Église, c'est le corps mystique de Christ, et celle-là, vous n'y adhérez pas, vous y naissez. Comme je l'ai toujours dit, ça fait 53 ans que je suis dans la famille Branham, et je n'y ai jamais adhéré, j'y suis né. Voyez? Maintenant, remarquez, il y a un merveilleux type de ça. J'ai la référence biblique en note ici, mais on n'a pas le temps de le prendre. C'est Ésaü et Jacob. Or, Ésaü, c'était un homme religieux. Il ne prétendait pas être un incroyant. Il croyait au même Dieu que Jacob, au même Dieu que son papa. Mais ce n'était qu'un chenapan, ou, excusez l'expression, il n'était qu'un vaurien. Il était là, sur le plan moral. En fait, c'était un homme au comportement plus moral que Jacob. Mais vous voyez, il ne pensait pas, « Oh, qu'est-ce que ça peut changer, le droit d'aînesse ?» Et il a vendu son droit d'aînesse à Jacob. Voyez? Mais Jacob, lui, il n'avait pas des grandes choses, et comme Ésaü en avait. Il n'avait pas le même héritage que lui. Mais il n'y avait qu'une chose que Jacob voulait avoir, c'était le droit d'aînesse. Et peu lui importait quels moyens il lui faudrait prendre pour l'obtenir, il était décidé à l'obtenir. Et Dieu a porté un regard favorable sur lui. Et alors, c'est la même chose pour l'homme naturel d'aujourd'hui, à la pensée charnelle, à l'esprit mondain. Eh bien, moi, je suis membre de l'Église établie, je suis membre de cette Église-ci, je suis membre de cela. Ça n'a absolument rien à y voir, absolument rien. Regardez bien, il est réuni maintenant sur son cheval aux couleurs mélangées. Il est réuni sur son cheval aux couleurs mélangées parce qu'il possède le pouvoir politique. Vous ne croyez pas ça? Le président qui vient d'être élu, comment a-t-il réussi à passer? Une gaffe semblable, comment est-ce possible? Oui, on vient s'établir ici à cause de la liberté de religion. Et vous autres, les démocrates, qui vendez votre droit d'aînesse pour la politique? Je n'ai pas le parti démocrate, je n'ai rien contre. Les deux sont pourris. Je parle du christianisme, mais que vous vendiez votre droit d'aînesse sur la liste électorale des démocrates pour élire une chose pareille. C'est une honte. Vous ne vous rendez pas compte que cette nation est à l'image exacte d'Israël? Qu'est-ce qu'Israël a fait? Elle est venue s'installer dans un pays étranger. Elle en a chassé les occupants. Elle les a exterminés. Et elle est entrée et a pris possession du pays. C'est ce que nous avons fait, les Indiens. Nos amis les Indiens, ce sont les seuls vrais Américains. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Israël a eu quelques grands hommes. Bientôt, ils ont eu David, ils ont eu Salomon, ils ont eu de grands hommes. Et finalement, ils ont eu un renégat sur le trône, Achab, qui a épousé une Jézabel, une incroyante. Eh bien, nous avons fait la même chose. Nous avons eu un Washington et un Lincoln. Mais regardez ce que nous avons maintenant. Et ce qu'il y a en réalité, c'est qu'il a épousé Jézabel. Il est enfoncé jusqu'au cou et il est complètement aveuglé par elle. Cet homme, c'est peut-être quelqu'un de très bien, mais c'est elle qui va mener la barque. Et vous le voyez en ce moment, toute la famille est en train d'entrer. Qu'est-ce que le Saint-Esprit m'a dit il y a environ 35 ans? Et tous ceux qui viennent ici depuis longtemps, vous êtes au courant. C'est cette chose qui arriverait avant la fin. Et celle-là, c'est la dernière, c'est l'avant-dernière qui devait arriver. Tout le reste s'est réalisé, exactement comme prédit, jusqu'aux guerres et tout le reste. Voyez, et à présent, elle est entre ses mains. Une femme va diriger la nation. Jézabel, voyez? Mais souvenez-vous, du temps de Jézabel, quelqu'un ne s'est pas gêné pour leur dire ce qu'il en était, voyez? Leur rassemblement sur leur cheval aux couleurs mélangées, vous voyez? Il réunit tout ça, un mélange de credos, de dénominations, de doctrines faites de main d'homme, pas vrai? Bien sûr, une couleur mélangée, la couleur mélangée de ce cheval du monde, de la couleur pâle de la mort. Maintenant c'est vrai. Les couleurs mélangées du cheval de couleur pâle qui représente la mort, le monde. Oh là là, pas de sang sacré de la parole du tout. Et regardez bien, du coin, des quatre coins de la terre, il les rassemble. Il les rassemble à Armageddon, dit la Bible. J'essaie de penser au passage des Écritures que j'ai noté ici. Je ne vais pas les citer, mais je regarde ce que j'ai écrit pour voir ce que c'est. Il les rassemble pour le grand jour du combat du Seigneur Dieu. Regardez bien. Donc, sur ce cheval aux couleurs mélangées, ce cheval du monde, malade, de couleur pâle, pensez-y un peu. Vous savez, c'est mauvais, ça. Maintenant, regardez bien où il les rassemble. Des quatre coins de la terre. Ils se rassemblent maintenant pour la confrontation. La confrontation se fera à Armageddon, selon la parole. Voyez ? Sur le cheval de couleur pâle, avec celui qui le monte, qui porte la mort, qui porte le nom de la mort, l'Antichrist. Écoutez, l'Antichrist, la première dénomination, ça, c'est incontestable. Avec sa Jézabel, une prostituée quant à la parole, avec ses filles à elle qui l'accompagnent, les protestants, ils se rassemblent maintenant dans l'unité. Avez-vous entendu les baptistes l'autre jour qui parlaient ici, vous savez? Hein? Oh, on ne va pas se joindre à eux, mais on va être gentil avec eux, resserrer un peu les liens, quoi. On ne deviendra pas membre de leur église, mais... Et voilà, c'est exactement ce que la parole dit. Voyez, une vieille prostituée, pour commencer, vous voyez? Alors, les voilà qui se rassemblent pour cette confrontation d'Armageddon, montée sur un cheval de couleurs mélangées. Cheval blanc, cheval roux, cheval noir. Les trois puissances. La puissance politique, la puissance spirituelle et, à la tête, la puissance démoniaque, c'est-à-dire l'Antichrist. Quand on mélange tout ça, ça donne cette chose d'une pâleur maladive sur laquelle il est monté. C'est vrai. Maintenant, remarquez. Regardez ce qu'il monte. Ce cheval livide, de couleur grisâtre, un mélange de noir, de roux et de blanc. Il s'avance pour le combat. Il rassemble ses sujets de toutes les nations qui sont sous le ciel. Est-ce que Daniel n'a pas interprété le songe et vu le fer qui pénétrait tous les royaumes, Rome, et les voilà qui se rassemblent. Maintenant, restez assis tranquille un instant, comme je termine. Écoutez attentivement. Il se rassemble maintenant pour ça. Il amène ses sujets des quatre coins de la terre, alors qu'il monte un cheval de trois couleurs mélangées, un cheval d'une pâleur maladive, le même homme. Maintenant, dans Apocalypse 19, il n'y a pas seulement lui qui se prépare, mais Christ aussi se prépare à le rencontrer. Le combat s'annonce chaud et acharné. Christ, dans Apocalypse 19, Christ rassemble les siens, pas des quatre coins de la terre, parce qu'il n'y aura qu'un très petit reste. Qu'est-ce qu'il fait? Il les rassemble des quatre coins du ciel. Demain soir, on va prendre les âmes sous l'autel, et vous allez voir si c'est vrai ou pas. Des quatre coins du ciel, sur un cheval blanc comme neige. Lui aussi, il a un nom. Pas la mort, mais la parole de Dieu, la vie. Amen. C'est écrit là, sur sa cuisse, la parole de Dieu. C'est la seule vie qu'il y a, parce que Dieu est la seule source de la vie éternelle. Zoé, pas vrai? Sur lui, c'est écrit la vie, alors qu'il monte un cheval blanc. Et ici, on a un homme qui a trois puissances différentes mélangées, et qui s'appelle la mort, qui rassemble ses délégués qui sont attachés à cette terre. Christ, lui, il rassemble ses sujets qui sont nés du ciel, ses saints. Sur lui, c'est écrit la mort. Sur Christ, c'est écrit la vie. Ceux qui sont avec lui montent des chevaux blancs aussi. Ils sont appelés les élus avant la fondation du monde. Amen. Ils sont fidèles à la parole. Amen. J'aime ça. Appelés, élus avant la fondation du monde, et ensuite fidèles à la parole, par leur choix à eux, remplis de la stimulation du vin nouveau et de l'huile. Ils n'arrêtent pas leur course, ils vont à sa rencontre. Ils savent que les tonnerres ne vont pas tarder à introduire cela pour nous. Voyez? Regardez bien, comment est-ce qu'il s'y prend? Si, donc, il est la parole, et que son nom est la parole, alors la parole est vie. L'antichrist, tout ce qui est anti est contre. Par conséquent, anti, c'est contre le Christ, la parole. Alors, il doit s'agir d'un credo ou d'une dénomination qui est contre la parole. Eh bien, je ne vois pas comment vous pourriez le manquer. Si vous, vous le comprenez, comment pourriez-vous le manquer? Je ne vois vraiment pas comment. Et c'est vrai. Anti, c'est contre. N'est-ce pas vrai? C'est de retrancher. C'est ce qu'il était. Il monte son cheval mélangé. C'est ce que nous avons vu ici même dans la parole de Dieu. C'est ce que nous avons vu là dans les sept âges de l'Église. Et voici qu'il en parle encore dans les sceaux, alors qu'il dévoile et montre les choses qui se sont passées au cours des âges de l'Église. Anti, c'est contre la parole. Vous voyez pourquoi les credos? Pourquoi nous sommes tellement contre les credos et les dénominations? C'est parce qu'ils sont contre la parole. Voyez? Nous voyons ici la vie et la mort qui en arrivent à la lutte finale. Le cheval blanc de la vie véritable, le cheval de couleur pâle des credos mélangés. Ils voient la chose qui en arrive à la vraie confrontation. Maintenant, je voudrais dire quelque chose ici. Vous ne le croirez peut-être pas, mais je l'ai vérifié pour en être sûr. Il n'y a qu'une couleur originelle, et c'est le blanc. Combien savent cela? Il n'y a qu'une couleur originelle. Tout le reste est mélangé. Christ est sur une parole sans mélange d'un blanc pur dès le commencement. Amen. Amen. Toutes les couleurs seraient blanches si aucun produit chimique n'y avait été mélangé. Amen. Gloire. Toutes les églises seraient fondées sur la doctrine apostolique de la parole de Dieu. Et Dieu serait là pour la confirmer si lui, il n'y avait pas mélangé des credos ou des dénominations. Voilà. Oh, frère Evans, je me sens bien en ce moment. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Il n'y a qu'une couleur originelle, et c'est le blanc. Il n'y a jamais eu de mélange, ni avec des dénominations, ni avec des credos. Non, monsieur. Et souvenez-vous, ces saints sont revêtus de robes blanches. Aucun mélange avec les dénominations et les credos. Or, nous voyons que les dénominations et les credos, c'est ce qui donne cette couleur mélangée. Mais celle sur laquelle lui, il est monté, c'est la couleur originelle. et son peuple portent la couleur originelle. Elles ont été plongées dans le sang qui a nettoyé leurs vêtements et qui l'a retourné là-bas. Voyez, c'est vrai. Ceux qui ont fait des mélanges ont pris une couleur pâle et ils vont vers la mort. C'est de pervertir, de la perversion, que de mélanger des couleurs au blanc. Vous pervertissez la couleur originelle. Pas vrai? Si la couleur originelle, la seule couleur, c'est le blanc, et que vous y mélangez autre chose, vous pervertissez sa vraie raison d'être. Amen. Pas vrai? Et quand, s'il est le cheval blanc et qu'il est la parole, alors de mélanger quoi que ce soit avec cela, n'importe quel credo, d'y ajouter un mot ou d'en retrancher un mot, c'est de pervertir le tout. Oh là là, garde-moi fidèle à la parole, Seigneur. La vérité est l'erreur. Oh là là, peu importe combien ça peut être bien, la vérité et l'erreur ne peuvent pas se mélanger. Elles ne peuvent pas se mélanger. Ou bien c'est l'ainsi dit le Seigneur, ou bien c'est faux. Peu importe quel Saint-Père l'a dit, Saint Bonifère ou l'archevêque de Canterbury, je ne sais pas qui peut l'avoir dit. Si c'est contraire à la parole, c'est de la perversion. Ça ne se mélangera pas. Vous dites, mais cet homme-là, il a fait ce qu'il a fait, ça m'est égal. Combien il peut être saint ou n'importe quoi. C'est ceci, la seule vérité directe que nous avons. Aucune église, aucun credo ne possède la vérité si c'est en dehors de ceci. Et montrez-moi une seule qui la possède. Allez, dites-moi donc laquelle. Je vais prendre ma Bible et vous montrer quelque chose. Voyez, nommez-la-moi. Vous dites, les pentecôtistes, oh là là, je viens de capter cette pensée-là de quelqu'un. C'est pour ça que je l'ai dit. Il vaut mieux que je n'aille pas plus loin, parce que je vois que je suis en train de toucher à une corde sensible. Je ne voulais pas vous vexer, mais je voulais juste que vous sachiez que je savais ce que vous pensiez. Voyez? Ceux qui ont fait des mélanges, ils ont transformé l'anti en mort. Ils prennent la couleur de la mort. Quand on mélange quoi que ce soit à l'original, c'est comme ce que Christ a dit au sujet du grain de moutarde. Pourtant, c'est la plus petite de toutes les semences, mais elle ne se mélange à rien d'autre. La moutarde ne se mélange pas. C'est de la moutarde authentique. Alors, si vous avez seulement cette quantité-là de foi, accrochez-vous-y. Remarquez, la vie suivait le cavalier sur le cheval blanc, qui était la parole, la vie, confirmée par ces saints ressuscités qui l'accompagnaient. Maintenant, comment le combat va-t-il se passer? Jésus a dit, « Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Il a dit, « Si vous croyez en moi, vous vivrez, quand même vous seriez mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Il a aussi dit, « Celui qui croit en moi, il lui donnera la vie éternelle, et il le ressuscitera au dernier jour. » C'est sa promesse de l'Écriture. Voilà Satan, avec les quatre coins de la terre, avec ses protestants, et avec ses catholiques, et tous ensemble. Il s'avance pour le combat d'Armageddon. Très bien. Et voilà Jésus qui descend du ciel avec les saints ressuscités. La parole confirmée. Je l'ai dit, si Dieu parle ou vous envoie, il appuie ce que vous dites. Voyez, remarquez, si vous êtes un ambassadeur du ciel, alors le ciel tout entier est derrière vous. Et le ciel consiste en la parole. Oui, remarquez, donc, il est arrivé avec les saints ressuscités, ce qui confirme que sa parole est vraie. Donc Satan sait alors que l'abîme l'attend. Voyez, oh là là, alors que la mort montait le cheval de couleur pâle, un mélange de credo et de dénomination, et qu'elle le suivait, oh là là, vers la séparation éternelle avec Dieu. C'est là qu'il les menait, à la séparation éternelle. Christ menait son Église tout droit dans la gloire, à la résurrection. Remarquez, le verset 8, là, juste là, la dernière partie du verset 8, alors que nous terminons, vous voyez, le pouvoir leur fut donné, leur, c'est qui, voyez, bien. L'Antichrist s'appelait la mort. Le séjour des morts l'accompagnait. Regardez bien son plan en quatre points. Antichrist, cheval blanc. Il fait mourir sous forme d'esprit, comme Antichrist, une mise à mort spirituelle. Point 2, cheval roux. Il fait mourir par l'épée, par le pouvoir politique, quand l'Église et l'État se sont unis. cheval noir, les âmes, quand il distribuait sa doctrine, qu'elle le faisait là avec ses fornications, et qu'il pesait leur nourriture par, qu'il leur vendait leur, ce qu'il leur donnait comme nourriture sur la balance pour des deniers et tout ça. Quatrièmement, cheval de couleur pâle, la séparation éternelle d'avec Dieu. Encore un quatre, vous voyez? Oh là là, que Dieu soit loué. Maintenant, finalement, pour conclure, pour ceux, avez-vous, j'ai dépassé l'heure. Mais voulez-vous m'accorder encore une dizaine de minutes? J'ai reçu tellement d'appels aujourd'hui au sujet de ce que j'ai dit ici. Le sujet d'Élie, ça a déclenché tant de fanatisme que c'est tout simplement, on attaque ça sans relâche. Et vous pouvez, eh bien, permettez que Dieu m'aide à vous aider à voir ce que je suis en train de contempler. Le voulez-vous? Essayons, vous voyez? Donc, je veux dire ceci en terminant, pour ceux qui ne croient pas que le dernier messager de l'âge de l'Église, c'est Élie, le prophète, un homme avec cette onction-là sur lui. Après la mort, regardez bien, après la mort de ce dernier âge de l'Église, maintenant, vous remarquez ce qui s'est passé, vous voyez, après la mort, leurs cadavres sont détruits par des bêtes sauvages. Ça, vous le savez. Donc, c'est bien ça. Il en est pour eux comme pour Jézabel, le type. Maintenant, prenez Apocalypse 2, 18 et 20. Je crois que nous l'avons lu il y a quelques minutes, n'est-ce pas? Oui, je crois que nous venons de le lire. Je l'avais noté ici pour quelques... Oui, le temps de la déchéance morale, c'était pour ça. Vous voyez comment c'était? Comment Jézabel est entrée? Or, Jézabel, c'est les églises, cette église moderne, pas l'épouse, là. La Jézabel de l'Ancien Testament est un type de l'église d'aujourd'hui, selon la parole de Dieu. Apocalypse 2, 18, 20. Tu laisses la femme Jézabel qui s'est dit prophétesse. Voyez, pas vrai? Donc, on en a le type parfait en Jézabel. Maintenant, d'abord, nous pourrions vous donner verset sur verset, vous voyez, pour montrer qu'au dernier âge, c'est un message prophétique pour l'Église, pour les appeler à revenir à la parole originelle. Maintenant, remarquez, pas vrai? C'est ce que dit Malachie 4 et d'autres, Apocalypse 10, 7 et ainsi de suite. Voyez, Jésus lui-même l'a prédit, et le reste, et le reste, et le reste, ce qui arriva au jour de Lot, et ainsi de suite, comme ça, et tout le long. C'est annoncé constamment, tout le long. Jézabel est le type de l'Église moderne d'aujourd'hui. Parce que les catholiques et les protestants sont maintenant unis. Il n'y a pas moyen d'y échapper. Ce sont toutes les deux des dénominations. Alors c'est simplement mère et sœur, c'est tout. Elles se chamaillent, elles se disputent entre elles. Mais n'empêche qu'elles sont pareilles, toutes les deux des prostituées. Maintenant, je ne dis pas ça de moi-même. Je cite « l'ainsi dit le Seigneur ». Voyez, très bien. Maintenant, nous voyons que Jézabel a été tuée sur l'ordre de Dieu. Elle était tuée parce que Dieu a envoyé Jéhu faire jeter Jézabel par la fenêtre pour la faire mourir. Et les chiens ont mangé sa chair. Pas vrai? La vraie Jézabel. Achab, son roi, son chef. Les chiens ont léché son sang à lui. Comme le premier Élie l'avait prédit. Vous voyez dans quelle direction nous allons, n'est-ce pas? Pourquoi? Le premier Élie, c'était un homme qui était rejeté par les églises. Et Jézabel et Achab étaient à la tête de ces églises, de l'église et de l'état des deux. Élisée a révélé à Achab ses péchés et il a ordonné à l'Église tout entière de revenir à la vraie parole. Voilà bien précisément ce que le deuxième Élie doit faire quand il viendra vers cette Église aujourd'hui, rétablir la foi originelle. Je ne vois pas comment vous pourriez faire pour nier cela. C'est juste, revenir à la vraie parole. C'est juste. Maintenant, si vous voulez voir leur corps, prenons Apocalypse 19, après qu'ils ont été tués par la parole. Or, la parole va les tuer. Ça, vous le savez. Très bien. Maintenant, regardez bien. Vous allez voir ce qui se passe à la venue de Christ dans Apocalypse 19, à partir du verset 17. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Maintenant, ça, c'est juste après que, regardez un peu plus haut, son vêtement était teint de sang. Elle s'appelle Roi de Rois et Seigneur de Seigneur. Au verset 13, il s'appelle la Parole de Dieu. Voyez? Alors le voici, Roi de Rois et Seigneur des Seigneurs. Et je vis un ange. Maintenant, regardez bien, il s'avance. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. De sa bouche, comme de la bouche de Dieu, à la bouche de Moïse. Voyez, il les pètera avec une verge de fer et foulera la cuve du vin, vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il a sur son vêtement un nom, sur sa cuisse un nom écrit, « Roi de rois et Seigneur des seigneurs ». Et je vis un ange. Maintenant, regardez bien. Maintenant, il s'avance pour frapper. Qui frappe-t-il? Jézabel et son Achab, le faux prophète. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux au milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu ». Il les donne en pâture aux bêtes sauvages et aux oiseaux. Maintenant, regardez ici, dans l'autre chapitre ici, du livre de l'Apocalypse. Et, un instant, faire périr par l'épée, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Voyez, l'église Jézabel, son corps, il va être dévoré par les oiseaux et les bêtes sauvages de la terre. Exactement comme ce qui est arrivé à Achab et à Jézabel dans le naturel, il leur arrivera la même chose sous la forme spirituelle à l'Église. Vous voyez ce que je veux dire? Très bien. Élie, c'était le prophète du temps de la Achab et de la Jézabel naturelle. Et il est promis qu'il fera la même chose, selon l'ainsi dit le Seigneur de la parole, à la Jézabel spirituelle, la forme esprit de son ministère. Regardez bien, à son époque, Élie, même s'il avait été correctement et profondément confirmé, il n'a pas réussi à les ramener à la parole. Pas vrai? Pourtant, Élie a tout essayé. Il a tout fait. Il leur a fait voir des signes et des prodiges. Et ils l'ont ri au nez. Et ils vont faire pareil avec la forme spirituelle ici. Vous voyez, il n'a pas réussi à les ramener à la parole. Sur les millions. Maintenant, Église, écoutez. Et attentivement, là, vous pour qui ce n'est pas tout à fait clair. Sur les millions qu'il y avait dans le monde au jour d'Élie, sous le règne de Jézabel et Achab, le type de l'antitype d'aujourd'hui, dans le monde entier, il n'y en a eu que 700 qui ont été sauvés par la prédication d'Élie. Pas vrai? C'est exactement ça. Regardez, Élie n'était même pas au courant d'un seul d'entre eux. Il pensait qu'il était le seul à être sauvé, jusqu'au moment où Dieu a ouvert un des sceaux et lui a montré le mystère du livre, qu'il y en avait 700 qui n'avaient jamais fléchi le genou devant les credos qu'ils avaient. Quand Dieu a ouvert son livre à Élie, il a dit, « Une minute, là, fiston, il y en a 700 qui me sont réservés là-dedans, dont le nom est dans le livre depuis la fondation du monde. Ils sont à moi. » Dieu a ouvert les sceaux. Je pense que c'est pour ça que Jean criait si fort l'autre soir. Il a dû voir son nom écrit dedans. Voyez-vous? Voyez? Un jour, Dieu a ouvert Élisée. Il avait prêché. Il avait tout fait. Et il avait prêché de tout son cœur. Il avait fait tout ce qu'il pouvait. Mais malgré tout, on ne faisait que le huer et le traiter de tous les noms. Et lui dire, c'est de ta faute tout ça. Tu es un spirit. Tous ces problèmes qui nous tombent dessus, c'est de ta faute. Le coupable, c'est toi. Et ainsi de suite. Il n'y a rien qu'il ne lui a pas dit. Jézabel a menacé de lui couper la tête et tout le reste. C'est vrai, tout le monde était contre lui. Alors il a dit, « Seigneur, après que j'ai fait tout ce que tu m'as dit, j'ai suivi ta parole à la lettre. Quand tu me disais quelque chose, j'étais sans peur. Je suis même allé vers le roi et tous les autres, et je leur ai dit en face, « Ainsi dit le Seigneur. » Et tu ne m'as jamais dit quoi que ce soit, et je ne leur ai jamais dit quoi que ce soit qui ne soit pas arrivé. Et maintenant, me voilà, le seul qui reste de tout le groupe. Je suis le seul qui reste, et ils en veulent à ma vie. » Dieu a dit, « Je vais ouvrir un des sceaux et te montrer quelque chose. » Il a dit, « Tu sais, j'en ai 700 là-bas qui n'ont jamais fléchi le genou, qui n'ont encore jamais suivi aucun de ces credos, de ces dénominations. Il y en a 700 qui sont prêts pour l'enlèvement. Tu vois? Oh! Oh! » Il a dit à son prophète, celui à qui il révèle sa parole, vous voyez, tout le long des Écritures, « J'ai encore 700 noms que j'ai préparés pour cette génération. » J'en ai 700. Ceux-là n'ont fléchi le genou devant aucune, comme je le dirais en ce jour-ci, organisation religieuse. Ils ne se sont pas laissés endoctriner par elle. Vous voyez ce que je veux dire? Alors c'est tout simplement inévitable. Il doit en être ainsi. Et c'est selon la parole. Quand cet homme entrera en scène, il sera prophète. Aussi sûr que je me tiens ici, derrière cette chaire. Voyez? Et il ne s'écartera pas de cette parole. Personne ne lui fera baisser pavillon devant un credo, ni devant rien d'autre. C'est exact. Un homme des bois, c'est le genre d'homme qu'il sera, comme Élisée. Il est comme Jean quand il est venu. Il détestera les femmes. Oh là là, les femmes immorales. Il va vraiment leur tomber dessus. C'est ce qu'Élie a fait. Et Jean aussi. Voyez, voyez. Et il ne déliera pas du tout de la parole. Il sera contre les organisations. Organisations, ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants Abraham. Voyez. Assurément. Donc, voilà, les amis. Voilà le quatrième sceau, ouvert. Et les cavaliers des quatre chevaux sont révélés, pour autant que je sache. Or, ça, c'est tout ce qui s'est passé sur la terre. Le prochain sceau que nous verrons, il se passera dans le ciel, où il y a les âmes sous l'autel. Maintenant, pour terminer, je voudrais juste dire deux ou trois, vous dire quelques petites choses que j'ai notées ici. Nous avons passé et repassé ces quatre sceaux, les quatre premiers sceaux. Maintenant, demain soir, nous aurons un changement de décor. À partir des choses qui ont lieu sur la terre, il lève les yeux et il voit les âmes qui sont sous l'autel du sacrifice. Le soir suivant, c'est le jugement qui s'abat. Et le quatrième soir, ou le dernier soir, dimanche soir, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il en est de ces autres. Je les ai juste lus comme vous. Mais il y a eu un silence d'une demi-heure. Mais il s'est passé quelque chose. Je m'attends à ce qu'il le révèle. Il le fera. Je suis convaincu qu'il le fera. Nous avons dû prendre plusieurs passages des Écritures jusqu'à Apocalypse 19 pour montrer que c'est par la venue de Christ que l'Antichrist sera tué. C'est pour ça que je ne me suis pas borné à prendre seulement les deux versets. J'ai dû prendre différents passages des Écritures pour prouver ces choses. Donc, c'est pour ça que j'ai pris Apocalypse 19 pour montrer que la fin de l'Antichrist, c'est quand il sera tué. Christ, quand il viendra, il tuera l'Antichrist. Aussi, Apocalypse 10, pour montrer que le message du septième ange, ce sera une personne, en ces derniers jours, qui sera loin de Dieu pour remplir un ministère tout à fait semblable à celui d'Élie le prophète, comme prédit dans Malachie 4, pour révéler la vraie parole de Dieu, originelle dans cette génération. La parole de Dieu originelle dans cette génération. La façon dont il avait agi avec la Jézabel naturelle, c'est de cette même façon que cet homme agira avec la Jézabel spirituelle, les églises dénominationnelles. J'ai dû prendre le chapitre 7, le chapitre 10, versets 1 à 7, pour démontrer que c'était juste, et puis dans Malachie et Amos, et ainsi de suite, pour le démontrer. Élie, c'est un prophète qui a prophétisé et qui a condamné Jézabel dans cette génération-là. Élie n'a jamais connu la mort, certainement pas. Il est réapparu à peu près 800 ans plus tard, aux côtés de Jésus-Christ, sur la montagne de la Transfiguration. Il n'est pas mort. Or, nous voyons que, dans les derniers jours, son esprit doit oindre un homme, selon la promesse de Dieu. Il a été promis qu'au dernier âge, il ferait à la Jézabel spirituelle la même chose que ce qu'il avait fait à la Jézabel naturelle. Voilà pourquoi j'ai pris tellement de passages de la Bible pour prouver ça. C'est pour qu'il n'y ait plus aucune question dans votre esprit. S'il y en a encore, faites-le-moi savoir. Eh bien, écrivez-moi une lettre ou une petite note. Et cela s'accorde d'une façon si parfaite jusqu'aux bêtes sauvages qui, au dernier jour, vont détruire leur corps naturel, vont les dévorer, comme elles l'avaient fait à l'époque. D'après ma révélation, laquelle m'a été donnée par Dieu, telle que cela avait été annoncé, nous avons ici, pour autant que je sache, la vérité sur les quatre cavaliers. Que pensez-vous de Jésus? Je l'aime. Je l'aime. Parce qu'il m'a aimé le premier. est à qui mon salut sur le bois du calvaire.
Now remember, with no, with no.
Maintenant, souvenez-vous, je n'ai, c'est ça, continuez, c'est bien. Je n'ai absolument rien contre les gens qui sont dans les organisations. En effet, Dieu a des enfants dans le système catholique, il a des enfants dans le système méthodiste, il a des enfants dans le système baptiste. Il y a combien de gens ici ce soir qui sont sortis de ces différents systèmes quand ils ont vu la lumière? Levez la main. Maintenant, souvenez-vous, il y a des gens exactement comme vous qui sont là. Mais ce qui tue, c'est le système, vous voyez. C'est l'esprit antichrist qui finit par les amener au point où ils refusent d'entendre la vérité. Et vous vous souvenez l'autre soir, quand j'ai parlé du scellement, si un homme entendait l'appel du jubilé, mais qu'il refusait d'être mis en liberté, alors on l'amenait devant la porte. Et on lui marquait l'oreille avec un poinçon. L'oreille, c'est ce qui permet d'entendre. Et la foi vient de ce qu'on entend. Donc, s'il l'entend et qu'il refuse d'accepter sa liberté, alors il doit servir son maître dénominationnel le reste de sa vie. Amen. Oh, oh là là, n'est-il pas merveilleux? Je l'aime. Levons simplement les mains et adorons-le. Parce qu'il m'a aimé le premier. Gloire. Et à qui mon salut? Sur le bois du calvaire. Maintenant, courbez simplement la tête. Adorons-le maintenant, pendant que nous fredonnons l'air. Seigneur, comme nous sommes reconnaissants. Je suis si content, Seigneur, si heureux, à cause de toi et de ton peuple. Ô Seigneur, tu as acquis notre salut au calvaire. Nous l'acceptons avec joie, Seigneur. Maintenant, Seigneur, éprouve-nous par ton esprit. Et s'il y a au milieu de nous la moindre chose qui soit mal, la moindre incrédulité à l'égard de la parole, la moindre personne ici, Père, qui ne dise pas « Amen » à chaque promesse de Dieu, que le Saint-Esprit descende en ce moment, le cavalier au cheval blanc, alors que son esprit, l'esprit de Christ, s'élève contre l'Antichrist et qu'il appelle les siens. Appelle-les à sortir, Seigneur. Puissent-ils se repentir en ce moment, venir rapidement vers toi, être remplis de l'huile et du vin, et que leur robe dénominationnelle, la robe de la mort, de Caïn, se transforme en robe blanche comme neige, la robe de la vie éternelle, que l'époux leur remettra. Et un jour, ils iront au souper des noces, revêtus de la parole confirmée de la résurrection. Accorde-le, Seigneur. Sonde les cœurs, pendant que les gens s'attendent à toi, par le nom de Jésus. Maintenant, mon frère, ma sœur, mon ami, sondez votre cœur. Il y a longtemps que je suis avec vous, à peu près 33 ans. Vous ai-je déjà dit quelque chose au nom du Seigneur qui ne se soit pas accompli? Cherchez Christ maintenant, pendant que vous le pouvez encore. Il se peut que très bientôt vous ne puissiez plus le faire. Voyez? D'un instant à l'autre, il pourrait quitter le trône de son intercession. Alors, vous aurez beau pleurer amèrement, vous aurez beau taper du pied, vous aurez beau parler en langue, vous aurez beau courir d'un bout à l'autre de la salle, vous aurez beau faire tout ce que vous voudrez, devenir membre de toutes les églises du monde, il n'y aura rien, plus aucun décolorant pour votre péché. Et à ce moment-là, où est-ce que vous en serez? Eh bien, je crois de tout mon cœur que le trône est encore ouvert à tous. Je crois qu'il est encore sur le trône de Dieu. Mais il va bientôt se lever, là, Il va s'avancer pour réclamer ce qu'il a racheté. Il est en train d'accomplir l'œuvre de parent rédempteur pendant que Ruth attend. Mais bientôt, vous savez, une fois que Boaz a accompli son œuvre de parent, il est venu réclamer ce qui lui appartenait. Et c'est exactement ce que la Bible a dit qu'il avait fait. Il s'est avancé et il a pris le livre. À ce moment-là, l'intercession est terminée. Il n'est plus sur le trône. Il n'y a plus de sang sur le propitiatoire. Alors, qu'est-ce qu'il devient? Un tribunal. Qu'il ne soit pas dit un de ces jours, mais je pensais qu'il y aurait l'enlèvement. Pour entendre la voix vous répondre, il est passé. Que Dieu vous aide. Maintenant, courbons la tête. Frère Neville, venez pour terminer ou pour faire ce que vous avez à faire. Que Dieu vous bénisse jusqu'à demain soir.
Our Heavenly Father, we are truly thankful tonight that again our ears have been permitted by thy help to hear this message. We pray that it'll go even deeper and sink into our hearts. Mold us and make us after thy fashioning way according to thy will. We pray tonight that there may be no evil thoughts or anything that would permeate or any hindrance of any kind that would mar this kind of fellowship. May every one of the beloved in here tonight, dear God, may there come the feeling and the sense and the knowledge of the combined feeling of fellowship that's upon the people of God today. We pray that thou bless those who feel, as it were, their sense of need at this time. May you truly bring them in, Lord. Go with us now as you dismiss us, our Lord. Keep us under the unction and the anointing of the Holy Ghost. Let dreams, revelations, and visions cross us and help us, Lord, that we might be able to encourage one another and to be a cooperative one together with the message of thy servant and prophet. Bless all who are here confined within the four walls tonight. Take us to our places where you would have us to go. And we shall praise thee for all of this, for we ask it in Jesus' name and for his sake. Amen and amen. God bless you. Dismiss from the auditorium as soon as possible. Amen. God bless you, brother.